Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 36e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Quest Aircraft, le manufacturier américain des avions de la série Kodiak. Ça n'a pas grand-chose en commun parce que Divan Quest, des fois, ça vole pas bien haut.
Hey!
Oh! Bonsoir tout le monde, je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jeff Laporte.
Salut!
Comment ça va?
Ben!
Ça fait longtemps que j'avais pas posé la question.
C'est comme d'habitude.
J'ai déposé ma tisane, mon néocitran, puis j'en ai m'installé avec mes...
Mon néocitran!
J'en ai m'installé avec mes grosses pantoufles en nounours, puis ma doudou.
Moi, du néocitran, je trouve que ça goûte bon. Fait que j'ai goût d'en prendre même quand je suis pas malade. Ben, quand j'étais plus jeune, je suis sûr que je l'offrais, je serais comme... Oh, c'est plate en crise. Mais j'aimais vraiment ça. Hey, hein, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Commence donc, Dan, pendant que pour m'empêcher de parler de néocitran.
Ouais, c'est une bonne idée. C'est le fun parce que peu importe ce que je vais dire, ça va être plus intéressant pareil.
Tu vois comment on construit le podcast? On part de bas puis on monte.
C'est moi qui parle en premier. Hey! Ben, je sais que ça fait plus que deux semaines pour vous autres, mais pour moi, ça s'est passé le lendemain du dernier enregistrement, fait que je voulais en parler. BlizzCon est arrivé, finalement. Donc, j'ai passé beaucoup trop de temps à regarder des panels en jouant à WoW là, quand c'était la fin de semaine de BlizzCon. Tu sais, je fais un petit topo, quelques annonces là, pour ceux qui n'auraient pas suivi puis que ça pourrait peut-être intéresser. Pour les joueurs de Heroes of the Storm, ils ont annoncé des nouveaux héros. Le retour triomphant de Varian Wrynn, qui est le roi de Stormwind, qui est mort dans la cinématique au début de l'expansion de WoW. Mort, tu sais.
Spoilers.
Ouais.
Mais il est mort dans une cinématique.
Ouais.
Fait qu'il est mort pour vrai.
Il est mort pour vrai.
Et supposément. Ouais. Dans le fond, c'est un des premiers héros que tu peux choisir puis que tu peux changer. Mais tu peux choisir en fait en cours de route s'il va être plus comme damage dealer ou tank, dépendant des talents que tu choisis. En général, si tu prends un héros, il est un peu comme dans un créneau. Fait que c'est intéressant. Puis ils ont aussi parlé de Ragnaros, là, un des gros boss de WoW qui va revenir, qui est un espèce de gros élémental de feu, qui peut prendre le contrôle d'un building puis devenir gigantesque puis d'être super violent, tu sais, mais en étant une tourette. Fait que ça risque d'être intéressant. Overwatch ont finalement réussi, ils ont finalement révélé Sombra, là, qui gossait depuis beaucoup trop longtemps avec des teases. Une espèce de hacker infiltrateur avec un EMP, là, un Electromagnetic Pulse, donc qui gèle un peu toutes les habiletés de tout le monde comme habilité ultime. Fait qu'il y a une espèce d'infiltrateur qui va être assez intéressant comme jeu, puis différent un peu de ce qui existe aussi. Diablo, ils ont annoncé l'arrivée du nécromancien dans Diablo 3, après des nombreuses demandes de joueurs.
Mais encore du contenu pour Diablo 3, c'est très cool.
Quand même, après ce temps-là, là, c'est intéressant. Puis il y a un événement aussi pour souligner les 20 ans de Diablo qui se fête cette année. Donc pendant à peu près un mois, en janvier, si je ne me trompe pas, ils font une espèce de remake de Diablo 1, mais à l'intérieur de Diablo 3. Fait qu'on va pouvoir se déplacer en 8 directions, l'image va être pixelisée. Bon, le reste se joue comme Diablo 3, mais...
On en a parlé un petit peu là, dans nos discussions de groupe, mais j'ai un petit peu un problème avec le fait que c'est limité à un mois. Ça va revenir à tous les ans, mais c'est juste en janvier. Je comprends pour certains types de jeux, mais pour un jeu comme ça qui est... Je joue tout seul chez nous. Mm-hmm. Je suis comme, bon, ben, j'ai envie de jouer pas en janvier. Ben, t'as pas le contenu de... C'est quoi, le retour à Tristram ou quelque chose comme ça?
Je peux comprendre ton point de vue en même temps. C'est du contenu gratuit que t'as pas besoin de payer, contrairement à genre au nécromancien qu'il va falloir que t'achètes. C'est bon, on peut comprendre le... Anyway.
Mais de l'autre côté, ça garde le jeu comme... À toutes les années, Diablo va revenir au goût du jour.
Ça, c'est le bout où est-ce que je comprends ce qu'ils font, sauf que ça me donne pas de valeur à moi. C'est une bonne décision, mais ça m'apporte pas de valeur. T'sais. Fait que je suis un petit peu des deux côtés. Mais effectivement, peut-être que genre, cette année... j'ai pas touché à Diablo 3 depuis une éternité. Je vais le remettre dedans pour le faire. Puis peut-être que l'année d'après, on va faire comme « Ah ouais, c'est vrai, je le fais pas là, je rejouerai pas, fait que je vais rejouer à Diablo. » À qui ça sert vraiment? Ça leur donne pas une scène de plus que j'ouvre Diablo. Puis moi, ça me donne pas plus de valeur de pas pouvoir jouer dans le reste de l'année. Fait que c'est pour ça que je comprends que ça le remet d'actualité puis ça force le monde en reparler une fois par année. Mais bon, tout ça. T'sais.
Mais tu sais, je connais des gens qui vont, une fois par année, ils vont le rouvrir pour ça puis ils vont continuer à jouer pendant 6 mois. T'sais, ils vont repogner la piqûre, puis ils vont se rembarquer. Hey, on monte un nouveau perso.
Ben, c'est ça. Je pense que c'est plus. Ben, effectivement, je suis pas un gars qui joue à des jeux très longtemps. Fait que je suis pas celui qui va être concerné par aucune promo anyway du genre. Mais le genre de monde que tu as nommé, effectivement, c'est
monde-là.
C'est pour eux autres. C'est individu.
Sinon, Hearthstone, une nouvelle expansion qui est annoncée, Mean Streets of Gadgetzan. Où est-ce qu'on retrouve une version de Gadgetzan améliorée là, qui, après le cataclysme, s'est retrouvée sur le bord de la mer. Fait qu'il y a plein de commerces, mais aussi un gros marché noir avec 3 factions de mafia, si on veut, qui s'affrontent.
Ça risque d'être assez bien compliqué, ça.
Ça va être quand même assez drôle, là, avec des cartes qui peuvent être jouées genre par 3 classes. Puis en tout cas, ça va être intéressant à voir ce que ça va donner. Je pense que ça va faire un bon petit souffle de nouveauté dans Hearthstone. Puis sinon, pour Warcraft, ben, c'est sûr, ils n'ont pas annoncé une nouvelle expansion. La dernière vient de sortir pas longtemps. Mais ils ont un peu parlé de ce qui s'en venait. Fait que Tomb of Sargeras, pour ceux qui ont joué à Warcraft 3, on va retourner là. Puis des montures épiques pour chacune des classes que tu vas pouvoir débarrer. Fait que moi, je peux envoyer chier tout le monde en crissant mon camp sur ma tornade. En tant que chaman,
je ride une tornade,
allez chier.
C'est Dan Nado, c'est le prochain film.
Ouais, c'est ça. Tornade avec plein de Dan. T'es peur, hein?
Shadowrun!
top 10 de jeu.
Oh mon dieu, ça finit plus!
Puis on va faire plusieurs versions là, de Dan Nado 2, puis 3, puis 4.
Ouais, c'est voilà.
Bref, il y aurait eu des BlizzCon qui m'ont plus excité, mettons, que celui-là, mais c'était quand même des bonnes annonces, puis c'était intéressant à suivre. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux le hashtag Calexit.
Oui.
Puis non, ce n'est pas un mouvement de protestation là, qui demandait à Cal de quitter le campus. Là,
ça.
Cal?
Hey.
Cal?
What, guy?
Look, man, we need to talk.
Donc non, c'est un mouvement qui est plus officiellement connu sous le nom de Yes California, qui fait la promotion de la sécession de la Californie des États-Unis, dans le fond, par un référendum en 2019. Le mouvement est né en août dernier, là, c'est pas nécessairement très très récent, puis il y a eu le surnom Calexit qui est arrivé après le Brexit, là.
On peut sûrement leur envoyer des pancartes, on s'en sert pas.
Des belles pancartes du oui.
C'est si.
Si. Bref, gros retour dans les médias ces derniers temps avec l'élection de M. Trump. Puis ma réaction au Calexit à moi personnellement, ben les dates concordent pas. C'est sûr que c'est en 2036 que la Californie devient un État libre dans l'univers de Shadowrun. Hein? Mais en même temps, peut-être que l'élection de Trump, c'est le début d'un univers dystopien cyberpunk.
Ça prend ça pour se rendre là.
Ben, c'est ça. T'sais, fait qu'on
bientôt passe un nouveau segment, peut-être.
Peut-être.
Puis de toute façon, on en... Non, s'il te plaît. Puis anyway, on le sait, là, c'est pas parce que là, ils parlent d'un référendum que ça va se faire. Là.
Ben non,
on a un petit peu une idée de comment ça se
dépend.
Passe.
Peut-être qu'ils n'ont pas peur du mot référendum, comme si on a peur du mot référendum. T'sais, on a oublié que ça veut juste dire hey, ça te tente-tu ou pas? Bref. Éditorial.
C'est en quelle année dans Shadowrun, le Québec?
J'ai pas vérifié.
Ça, tu sais pas ça par cœur?
Ben, parce que mon segment Shadowrun, il fait date de trop longtemps, j'ai perdu des bouts.
OK.
M'ouvrir mes notes, là. Rien que ça. Sinon, pas tellement de gaming dans les derniers temps, hein, c'est ce qui arrive en fin d'étape avec des remises de bulletins. Hashtag vite prof. Toi, Matt?
Ben, en fait, je voulais faire premièrement un petit retour sur le dernier épisode publié, c'est-à-dire l'épisode 3 de La Causeuse. On a parlé des MMO du début des années 2000 suite à la discussion de Gunbound, d'il y a maintenant quelques épisodes.
Quand même.
Ben, on a eu une intervention de notre amie Chloé sur Twitter qui m'a rappelé Puzzle Pirates. Je peux pas croire que j'ai pas mentionné Puzzle Pirates.
Ben oui.
Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
Juste pour ça, merci ouais, Chloé.
J'y avais pas pensé, mais ça nous donne une occasion legit de plugger You Are a Pirate. Mais j'ai tellement, tellement joué, puis c'est un des jeux qui, à ce jour, reste les plus fascinants de tout ce que j'ai joué. Je sais que GF connaît un peu. Dan?
Non, ça me dit rien.
OK, c'est un MMORPG. C'est développé tout en Java, ce qui fait que côté performance, surtout sur les machines à l'époque, c'était un petit peu laborieux. C'est probablement des choses qui a beaucoup de nuit. Mais on a un jeu qu'on a une vue isométrique, qu'on peut explorer un océan. Fait qu'il y a des villes, des îles, etc. Mais chacune des mécaniques du jeu est résolue à travers un puzzle, mais style Tetris, style Puzzle Fighter, style Bejeweled, des trucs comme ça. Et toutes les actions sont vraiment cohérentes à notre expérience. Au cœur du jeu, on est amené à faire partie de l'équipage d'un navire.
Okay.
Quand on est sur le navire, on a une station où est-ce qu'on doit s'occuper de la binge, c'est-à-dire enlever l'eau qui se ramasse dans les cales. C'est un puzzle à la Bejeweled. Mais notre résultat, notre efficacité dans le puzzle a un véritable impact sur ce qui se passe dans la vie du navire. Donc, on a la binge pour enlever l'eau, on a la charpenterie pour réparer le pont, etc. Et on a les voiles qui donnent de la vitesse au navire, qui est un puzzle à la Dr. Mario. Puis celui du charpentier, c'est un peu dur à décrire, là, mais c'est de placer des blocs pour couvrir des surfaces. Bref. Et quand on arrive à un niveau supérieur, on a un joueur qui incarne le capitaine sur les navires, parce que tout l'univers est roulé par les joueurs. Donc, quand on pilote un navire, on a un puzzle de navigation, bon, qui est différent des autres. Quand on arrive en combat, nos déplacements sur une vue tactique, isométrique, est guidé carrément par l'efficacité des gens à la navigation. Puis si on reçoit un boulet de canon, l'eau grimpe dans la cale, puis on doit la vider à travers le puzzle de binge.
La cale?
Pas qu'à la cale. Ah, Ce qui fait que toute l'interaction... Puis, exemple, si on, le capitaine a intérêt à demander à ses matelots, à son équipage, « OK, là, arrête la charpenterie, j'ai besoin de quelqu'un dans le cale. » Fait que tu peux donner un ordre, ça apparaît comme un avertissement dans l'écran de l'autre. « Va-t'en en bas, il y a trop d'eau, on va couler. » Fait qu'il y a vraiment une dynamique qui fait que le bateau est vraiment guidé par les actions de chacun des joueurs c'est qui bien est à bord. Puis, plus loin que ça, le jeu, bon, cette dimension-là, bien sûr, on partage le butin quand on arrive à port, toute la patente, et tout l'univers est mené par des joueurs. Fait que les administrateurs sont là, mais pour s'assurer que tout le monde est actif, que les joueurs qui ont les commerces sont actifs, mais se faire construire un bateau, c'est un commerce qui appartient à un joueur, puis qui doit être... que des joueurs doivent aller travailler pour mettre des heures sur la job. Donc, tu t'en vas faire un puzzle de... charpenterie pour le bateau, qui est différent de celui sur le bateau, bien sûr. Faire du linge. Toutes les shops, on peut aller travailler là. Ça nous donne de l'argent. Mais ça s'en va travailler sur les produits que les autres joueurs ont commandés. Ce qui fait que les recettes, etc., bon, sont fournies par les joueurs, pour les joueurs.
C'est deep. Il y a leur économie. Là.
Complètement player-run. Tu peux même faire des blocades. Tu peux mettre des bateaux. Des clans peuvent mettre des bateaux pour bloquer des îles pour empêcher les ressources de se promener. Parce que les magasins ont besoin de tissus, ont besoin de teinture, ont besoin de bois pour construire toutes ces choses-là. Donc, le jeu opère à tellement de niveaux. Puis, ce que j'ai trouvé qui était impressionnant de ce jeu-là, c'est que jamais il te... La profondeur était cachée. Donc, à chaque étape que tu joues, tu n'as pas l'impression qu'il y a un jeu massif que tu es en train de manquer. Mais à toutes les fois que tu avances, tu commences, tu es un matelot, tu fais les missions avec les AI pour la marine. Donc, il n'y a pas de capitaine à bord, puis c'est tout automatisé. Bon. Puis là, tu grimpes d'une coche, puis là, tu arrives à rouler avec des bateaux, à rouler avec des crews. Puis là, tu te rends compte qu'il y a cette profondeur-là. Puis là, tu arrives à avoir assez de cash, tu as payé un bateau. Puis là, tu te rends compte qu'il faut que tu ailles le faire, puis ça prend vraiment de temps. Puis que le monde. Puis là, ça grossit. Fait que tu vois, toutes les étapes s'ouvrent sur ton chemin. Fait que tu n'es jamais. Overwhelmed, là, t'es jamais enseveli sous plein d'options, ça s'ouvre naturellement en jouant. Évidemment, c'est un jeu qui est vieux, là, puis je sais que c'est encore actif.
Mais en fait, il y a un site qui semble fonctionner. Là.
Mais je pense que c'est actif, puis assez intégralement. Là. Je sais qu'il y avait des versions payantes par mois, puis des versions qui appelaient à doublons, là, les océans à doublons, où est-ce que tu supplémentes des achats importants dans le jeu avec du vrai cash. Fait que comme ça, selon ton rythme, tu dépenseras pas du tout si tu joues très peu. Puis quand tu vas acheter ton bateau, ben là, whoop, tu mets un 5$, mettons. Puis ça va t'amener là-dedans, etc. Mais c'était. C'est un jeu qui est fascinant. On mettra un lien là, évidemment là-dessus. Mais tout ce que je viens de dire aurait dû être dans l'autre épisode, mais c'est beaucoup trop fascinant pour pas en parler.
Moi, j'ai pas joué, mais genre, regardant le site, le visuel me rappelle quelque chose là, vaguement. Là.
Mais c'est extrêmement intéressant comme jeu. Puis justement, de faire que toutes les petites tâches qui souvent dans des jeux sont laissées à des clics de souris, qui deviennent quelque chose qui te demande toute ton attention, tu as l'impression de travailler à quelque chose. Puis ça a un véritable résultat, fait que ça devient. C'est ça, tu vois, tout bouge, t'es dans le milieu d'un chaos, puis tu participes comme tu peux. C'est super fascinant comme jeu. Très, très, très intéressant comme jeu. Puis ça n'a jamais eu le crédit que ça mérite de tout ce que ça a fait. Fait que bref, c'était mon très long retour sur un jeu fascinant. Fait que je pense que ça valait la peine. Ensuite, j'ai dans les dernières semaines, pas juste là, depuis le dernier épisode, mais j'ai rattrapé toute la série Halt and Catch Fire, qui est une série qui... raconte un univers fictif des années 80 allant des années pionnières de l'informatique moderne. Donc, on est à une époque où les gens construisent des clones IBM, puis on a quelqu'un qui veut se planter les pieds là-dedans puis faire de quoi de nouveau. Mais c'est super bien écrit, c'est extrêmement intelligent comme show. C'est 3 saisons, c'est des dizaines d'épisodes, là, fait que c'est pas rien d'insurmontable. Mais en plus, la série... couvre à travers les 3 saisons actuelles et la 4e saison qui s'en vient, qui va être la dernière, on le sait déjà. On couvre début des années 80 jusqu'au début 90. Donc, on passe à travers justement la création d'un clone IBM. On s'en va dans la saison 2 vers les premiers jeux en réseau avec connexion modem, etc. Donc, avant les époques d'American Online et tout ça, mais les jeux en réseau direct. Puis après ça, on voyage même. En fait, après ça, on s'en va vers Silicon Valley puis la montée des antivirus, qui était quelque chose qui n'existait pas. Bon, hein? Créer le problème et créer la solution, naissance des antivirus. Fait qu'on passe à travers tout ça. Puis chaque moment, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'informatique ou qui sont prêts à chercher pendant le show, on a beau être dans un univers alternatif, mais les personnalités réelles existent. Au moment des antivirus, par contre, on n'entend pas vraiment parler. Fait que les vraies compagnies qui ont été importantes, fait que les IBM, évidemment, les Apple, toutes ces grosses compagnies-là importantes, American Online, quand on parle du réseau, CompuServe, à l'époque du réseau, tout ça, sont là. Mais c'est juste comme d'autres joueurs dans cet espace-là. Mais on sait un petit peu, justement, que forcément, ça va être ça va échouer ou ça va changer. Mais on voit quand même des archétypes de ces personnages historiques-là qui sont repris par différents des personnages dans la série. Ce qui fait que c'est très, très intéressant justement de voir un des personnages prendre un peu le rôle de John McAfee, qui est un fucking malade mental. Là. Mais justement, il y a des personnages qui passent par cette phase-là à la naissance des antivirus. Puis... Fait que, bref, ça se trouve être une espèce de dommage, parodie, puis une série mauditement intelligente. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en saison 4 parce que ça m'a vraiment surpris.
Je trouve ça fun parce que je me rappelle, je voyais, avant que ça commence, au début, quand il y avait les reels de publicité à la télévision, puis qu'il annonçait que ça s'en venait, puis là, il y avait des petits extraits, ça l'annonçait vraiment pas ça.
Mais c'est toujours, c'est intéressant parce que c'est un choix pour de monde qui construisent quelque chose. Ce qui n'est pas un beat qu'on voit souvent, ouais, mais qui est super simple pourtant à suivre, de voir les défis techniques puis comment qu'ils résolvent. Puis évidemment, ça ne se repose jamais sur la technique, mais pour ceux qui comprennent, tout est là. T'sais, on voit du code assembleur quand il y a une défi qui est en train d'écrire du BIOS.
Oh my God. Peut-être un sujet qui pourrait être un sujet complet sur le pod éventuellement, mais l'authenticité de ce qu'on voit dans les films, les téléséries, c'est important aujourd'hui, puis ça l'était pas avant. T'sais, on n'est plus du temps d'Opération Swordfish, puis du hacking avec des gros cubes.
J'allais dire de Accès interdit, là, de Net avec Sandra Bullock.
Ou Pirate.
Ouais, oh, ben là, ça c'était très authentique. Voyons, Akil Gibson, voyons donc.
Ouais. Mais, monde... mais tu sais, aujourd'hui, on dirait que c'est. Il y a The Halt and Catch Fire qui est authentique. Mr. Robot, qui ont un ancien hacker qui travaille à superviser le show pour être sûr que tout ce qui est fait à l'écran soit authentique aussi.
Toute une saison, j'ai pas encore suivi le reste.
Mais je trouve que. Par contre, fuck it, on est rendu à en parler. Ah, ouais. Mais Mr. Robot a comme une espèce de fétichisme du réalisme.
Ouais.
C'est ça, c'est vraiment comme quelque chose qui est quasiment pornographique dans le show de que le hacking, tu vois le petit détail de il ouvre le téléphone Android, puis le root, puis tu le vois faire chacune des actions. Fait qu'il y a comme une espèce de. Ça, c'est quasiment pornographique, le hacking dedans. Ouais. Mais ça, c'est l'esprit du show. T'sais, c'est parfait pour le show.
Ça détermine clairement aussi à quel public ça s'adresse.
C'est ça. Tandis que Halt and Catch Fire, c'est un character drama. C'est vraiment une histoire des relations entre les personnages.
Puis en background, t'as le réaliste pour ceux qui sont capables de le spotter.
C'est ça. Puis
il est moins dans ta face, mettons.
Ouais, c'est ça. T'sais, c'est probablement plus que le contexte historique, les années 80, l'espèce de ruée vers l'or qui était l'informatique. Puis d'avoir tous ces gens-là qui sont pratiquement des génies, qui ont la capacité de tout faire, mais qui sont comme, c'est quoi la prochaine idée qui va marcher? Comment je peux laisser ma trace parce que je suis capable? Mais c'est quoi qu'il faut que je fasse pour être immortel, finalement, dans ce domaine-là? Fait que non, c'est super belle découverte.
On s'en est sur ma liste, ça, là.
Ben, j'espère. J'espère que je vous ai convaincu parce que j'ai vraiment adoré.
Au moins, t'as convaincu un gars. Les autres, ben, tant pis.
Voilà. Bon, je pense deux.
Bon, non, mais après, je filme ce robot. Puis
puis ensuite, ben, j'ai lu une bande dessinée cette semaine du nom de...
C'est lire?
Ben, quand il y a des images.
OK.
Je peux inférer le contexte selon les images. Je connais le mot inférer. Bon.
Mais tu sais pas lire, tu sais.
Je t'ai entendu, je trouvais ça
valable. C'est comme l'analphabète le plus littéré qui existe.
Merci. Je sais pas. Non, j'ai lu la BD Second Quest, qui mériterait une joke de Divan Quest, là, mais j'ai rien trouvé. Dessinée par David Hellman, qui est l'artiste qui a fait tout le visuel sur Braid. Petit jeu plateforme puzzle très intelligent et écrit par Tevis Thompson. C'est basé sur un article qui s'appelait qui s'appelle toujours là Saving Zelda, que Thompson a écrit il y a une couple d'années. Fait que sans rien vendre de l'histoire là, ça utilise Zelda comme modèle pour construire son histoire. C'est pas très long là, c'est 120 pages. Mais ça se trouve être une critique un peu de comment l'histoire de Zelda dans les années récentes a été construite, puis comment c'est un problème un petit peu dans la tête de l'auteur. Puis il nous en offre justement une critique à travers cette BD-là sans nous la pousser dans le fond de la gorge. Puis visuellement, bon, avec le art de David Hellman, c'est toujours très beau. On utilise souvent des palettes en dégradé, de nombre de couleurs limitées, avec des effets de dégradé qui sont super beaux à chacune des planches. Puis il y a un effet visuel qui est vraiment, vraiment cool où est-ce que quand il y a un des personnages qui peut voir des choses du passé, il y a comme un ruban qui traverse la page complète. Puis à l'endroit où le ruban intersecte avec une des cases, c'est comme si c'était une fenêtre à travers le temps. Donc ce qui est à travers le ruban, c'est v'là plusieurs années. Bref, c'est un effet qui est super intéressant. C'est un peu dur à décrire, évidemment, là, mais c'est très, très beau. Puis on peut lire les 20 premières pages gratuitement sur le site web qui est secondquestcomic.com. On peut le télécharger en PDF, c'est comme 8$ américains. On peut l'acheter sur Fangamer en copie physique. Fait que voilà, c'est ça pour moi, Jeff.
Écoute, au dernier épisode, on a parlé rapidement de Cannabalt.
Oui.
Puis ça m'a fait réfléchir cette semaine. C'est quoi d'autres jeux gratuits qu'il y a out there sur Internet qu'on aurait, que je ne connaîtrais pas et que je n'aurais pas joué. Enfin, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé des listes et des listes et des listes. Il y a un Reddit complet destiné à ça. Il y a eu des posts là-dessus. Il y a même quelqu'un qui s'est tout regroupé ensemble. Il y avait comme au-dessus de 150 jeux gratuits qui étaient dignes d'intérêt. Il y en a plusieurs.
Oui, parce que j'allais dire. Tu
sais, c'est tous les sites comme Kongregate, ces choses-là où il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas complets. Mais là, on parle de jeux complets, là, des RPG complets, des puzzles, des... Mais il y en a un qui a attiré mon attention particulièrement, qui s'appelle Not Tetris 2.
Ah, c'est bon.
Donc, vraiment, il y a eu un Not Tetris 1, mais j'ai joué à Not Tetris 2, qui est développé par Stab Yourself.
Voyons.
Puis c'est un peu le feeling qui nous vient quand on joue à Not Tetris 2.
Ben voyons. En fait.
Pour ceux qui savent c'est quoi Not Tetris 2, c'est super simple. C'est Tetris, c'est pareil, le même look, les mêmes formes, le même mécanique de faire des lignes puis les faire disparaître. Mais il y a la physique et la gravité,
ouais,
qui fonctionnent. Donc...
Oui, j'ai déjà joué.
Ah, oh, c'est drôle.
Ah, oh, c'est l'enfer.
On peut pas juste tourner les pièces dans un angle complet de 90 degrés. En plus, il donne un petit coup pour qu'elle tourne avec la gravité, comme ça. Puis les pièces, okay, tombent, ouais, un peu plus et ils tombent pas droit. Fait que ça fait un genre de... Tout le monde, mettez-vous en tête un écran de Tetris avec les formes. Imaginez que toutes les formes sont comme écroulées dans un
Tetris
coin.
Tetris rencontre Jenga. T'sais.
Un petit peu, c'est une super bonne image.
C'est très drôle.
Il y a un mode qu'on peut activer dans le jeu qui va rendre plus facile le travail de faire les lignes, si on veut, okay, ou qui va comme alléger le code de calcul de ce qui est une ligne horizontale. Fait que, tant, ouais, que ça, ouais, ressemble à une ligne, il va l'enlever, c'est correct. Ça devient très, très intéressant de juste empiler des blocs, puis à un moment donné, le poids des blocs décide qu'en bas, ça fait une ligne. Puis là, tout se met à s'effondrer. Enfin, je pourrais penser que j'ai passé des heures et des heures là-dessus. Mais si vous voulez quelque chose d'intéressant, puis passez le temps, c'est un jeu qui est gratuit. Donc, stabyourself.net.
Mais il y a quand même plein de choses intéressantes. T'as aussi Not Pac-Man, parce que c'est Pac-Man avec de la physique.
Ah,
Marie Zero, qui est Mario avec un Portal Gun, en tout cas, de ce que je lis vite. Là.
Du même créateur, quoi.
Ouais, 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 sur stabyourself.
Il y a tout plein de... Finalement, on ajoute de la physique dans des jeux qu'il n'y en avait pas dans le temps. C'est quand même très drôle. Dans la même liste, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant qui m'a ramené plusieurs années en arrière, au début des années 2000, qui est le Battlefield 2 Revive Project. Donc, les serveurs de DICE ont été fermés depuis longtemps pour ce jeu-là, Battlefield 2. Donc, il y a des gens qui ont repris le jeu, qui ont créé des serveurs, et il y a assez de joueurs pour dire qu'il y a au-dessus de 100 serveurs, puis il y avait des gens qui jouaient sur tous les serveurs. Là.
Nice.
Donc, on peut jouer à Battlefield 2, on peut y retourner. Je l'ai essayé rapidement. J'ai passé un petit peu plus de temps sur Battlefield 2142.
Oui.
Qui était la version futuriste. Là,
ouais,
avec les. Il y avait un mode super cool avec les titans, les gros vaisseaux dans les airs.
Les gros cristis de vaisseaux que tu peux border. Ouais.
Ça vieillit pas super bien. Mais on peut y rejouer. Il y a des joueurs qui jouent. Bon, après quelques minutes, j'ai fait le tour de la question. Là, surtout après Battlefield 1 qui m'attendait à côté. Niveau graphique, il y avait un gouffre qui séparait.
Le 1 puis 2142, ils ont dû faire une coupe d'amélioration dans les 2140 éditions qui les séparent.
Si peu. Si peu. Mais reste que c'est quand même intéressant qu'on peut rejouer à ces jeux-là encore aujourd'hui. Puis c'est des jeux que j'ai joués beaucoup trop dans des LAN parties, des choses comme ça. Donc, c'est le temps de revivre ces jeux-là. Mais le Battlefield 2 Revive Project vient avec les deux. En fait, on télécharge comme un petit logiciel d'installation qui nous donne le choix entre lequel on veut télécharger en premier. Puis les deux sont sur les mêmes serveurs. Battlelog.co, si ça vous intéresse. Je ne sais pas à quel point c'est légal de faire ça, par exemple.
Juste les serveurs. Il ne doit pas vraiment avoir de...
Mais c'est pas caché, tu sais. Puis il y a quand même beaucoup de joueurs, c'est même quand même assez annoncé. Si on cherche Battlefield 2 sur Google, ils sortent les premiers résultats en haut. Ça fait longtemps que ça roule. Je me suis dit que c'était illégal, on l'aurait déjà.
On posera la question à nos avocats et on vous en reparlera pas.
C'est ça, je m'en disais, ou pas, mais hein.
Puis on aura assez d'argent pour demander la question à un avocat, on posera la question.
Sinon, dans le thème des gratuités, puis un petit peu dans le thème de Puzzle Pirate, avec leur univers géré par les joueurs,
oui.
Il y a EVE Online, qui depuis le 15 novembre dernier est tombé gratuit, en fait, avec une genre de twist où on joue un personnage avec des accès limités, avec des skills limités, mais on peut jouer au jeu. C'est un petit peu tout l'inverse. Tu parlais de Puzzle Pirate tantôt.
Ouais.
C'est complètement l'inverse. Dans Puzzle Pirate, on était apporté, ouais, pas à pas à travers le jeu. Là, mais si ça vous tente de découvrir un jeu sans aucun tutoriel et sans...
être complètement overwhelmé et vous faire chier pendant les 350 premières heures.
Mais, parce que ça a l'air qu'ils ont refait le tutoriel. Ça a l'air qu'il y a un genre de campagne qui nous apprend tranquillement les mécaniques du jeu. Puis partout où je lis sur Internet, ça a l'air qu'il y a des centaines de joueurs, des communautés complètes qui se dédient à aider les nouveaux joueurs à jouer à EVE Online. Je les vois pas. Je les connais pas. Je sais pas son où. Enfin, c'est un jeu que j'ai ça doit faire au moins 4 fois là, que je le télécharge et je me dis, OK, je prends le 30 jours gratuit. Là.
Je prends le 30 jours gratuit, je prends mon mois de vacances.
Non, mais tu sais, je vais au moins faire le tutoriel. Je me suis jamais rendu à la fin du tutoriel.
Ouch.
Pas que le jeu m'intéresse pas, mais c'est un jeu, on dirait que j'aime mieux lire à propos de EVE Online que de jouer à EVE Online.
Ben, les gens qui jouent, ils font pas juste lire.
Ben non, mais ils doivent avoir des choses à faire. Je suppose, je ne me suis pas rendu jusqu'au jeu. Mais...
Pareil que c'est bien le fun.
Non, mais il y a tout le temps des articles sur les histoires, les batailles, les combats politiques.
Mais j'aurais peut-être un jeu pour toi, par exemple, qui s'appelle Puzzle Pirates.
Ouais, mais ça m'a titillé tantôt.
C'est comme EVE Online, mais avec des pirates.
Mais jouable. Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Mais tu pourrais être un pirate à EVE Online.
You are a space pirate.
A space pirate. C'est encore mieux.
En fait, c'est juste, on met le même drop, mais on met des piou-piou à la fin. Piou-piou-piou.
Voilà. Donc, si jamais ça vous tente de vous réessayer, si comme moi vous avez essayé plusieurs fois, vous avez échoué, ben, c'est gratuit depuis le 15 novembre. Il n'y a pas de question de 30 jours. Vous pouvez vous abonner puis prendre 60 jours si vous voulez vous faire le tutoriel.
Ah ouais.
C'est libre à vous.
J'avoue, quand t'as pas assez de temps dans le trial pour finir le tutoriel,
ça montre quelque chose. Hein?
C'est un statement. On est déjà rendu à l'actualité, il fait juste une demi-heure que je vais commencer.
Je pense qu'on s'est ennuyé. On s'est pas vu cette semaine. Là. Ça fait comme...
Alors, le site technologique au nom équivalent à 0,9144 mètres.
Ben, la verge! On n'est pas vite à soir.
Nous rapportait que le milliardaire russe Eugene Kaspersky, je vais dire Eugène Kaspersky.
Ah ouais, Eugène, c'est pareil.
Développeur de l'antivirus du même nom, pas Eugène, là, Kaspersky, okay. a publié un article sur le blog officiel de sa compagnie intitulé « That's it, I've had enough ». Dans ce dernier, le milliardaire au nom sensuel se plaint de Microsoft et de sa décision d'inclure l'outil de sécurité Windows Defender gratuitement dans toutes les copies de Windows. Il décrit la pratique d'anti-compétitive, disant que le tout crée des obstacles et nuit aux développeurs de logiciels de sécurité de tierce partie. Monsieur Kaspersky annonce également qu'il a déposé une plainte aux autorités responsables de la compétition en Union européenne, leur demandant d'exiger que Microsoft cesse d'inclure Windows Defender. Dans une nouvelle non reliée, la mafia aura déposé une plainte auprès de l'Union européenne, leur demandant de mettre fin aux activités de la police qui nuisent sévèrement à leur racket de protection des commerces.
C'est vrai pareil, hein?
Non, mais...
Mais c'est même combat.
Ben, t'sais? C'est ça.
Ouais, on aimerait ça que le monde se fasse infecter par des virus. Peut-être qu'il y a un racket, peut-être qu'il vend des ransomware, dans le fond.
Impossible de parler de l'actualité du gaming depuis notre dernier épisode sans parler de la NES Classic Edition, sortie le 11 novembre dernier. Fait que c'est ça, j'en ai parlé. Apple a lancé un tout nouveau... C'est à rire. Apple a lancé un tout nouveau produit le 15 novembre dernier. Étrangement, pour une fois, le tout n'a pas été annoncé lors d'un événement surmédiatisé animé par un cadre de la compagnie faisant usage excessif d'hyperbole. Et non, il a tout simplement été annoncé sur son site internet dans une page faisant usage excessif d'hyperbole. Peut pas tout changer pareil. Là, hein? Mais quel est ce mythique nouveau produit? Il s'agit de la cerise sur le sundae, qu'est la masturbation corporative. Un livre. Pas un MacBook, là. Un livre.
Je pensais qu'il allait sortir une cerise sur un sundae. Une cerise.
Oui, c'est le high cherry.
High cherry.
Pour ceux qui ont plus de cherry.
Fait que non, pas un MacBook, là. Un livre. Tu sais, là, du papier puis tout. Là.
Hein?
Fait que c'est un livre à la couverture toute blanche, hein, pour continuer sur le thème de l'autosatisfaction. rempli de photos de produits Apple, il est intitulé « Designed by Apple in California ». Cet éjaculat, avec une reliure en cuir, retrace les 20 ans de Johnny Ive, le designer des produits chez Apple jusqu'à tout récemment, en plus de 450 photos. Vous dites peut-être que c'est un produit sans offense, là, parfaitement timé pour faire office de cadeau de Noël là, aux fans d'Apple dans votre vie. Ben, sachez qu'il sera disponible en deux versions. Le petit format, 10 par 12 pouces, se détaille à 200 US, et un grand format de 13 par 16 pouces à 300 US.
Ah, t'as! Puis il compte en écouler combien?
Beaucoup quand même.
Avec les fans, il ne faut pas se surprendre. Je veux dire.
Tu sais, 300 livres pour un, 300 pièces pour un livre, ça, correct.
De 400 quelque part, avec des photos de produits. Hein. Genre, payer pour mettre du matériel promotionnel chez vous. Là. Rien de moins. Fait que, mais j'ai pas eu le plaisir là, de le feuilleter. Là. Ils doivent probablement charger la page. mais probablement que les dernières pages sont dédiées aux nombreux adaptateurs qu'ils ont dû designer pour rendre leurs produits utiles.
Les dongles.
Et comme dernière nouvelle, le Strong Museum of Play a annoncé cette semaine les nouveaux jeux et jouets intronisés au National Toy Hall of Fame aux États-Unis. Les nominations étaient nombreuses, mais trois gagnants ont été choisis. La balançoire, Les Little People de Fisher-Price.
Oh yeah!
Tu vas nommer Chubby, carré. Et rond, en fait.
Ouais, qui ont dû sûrement tirer du marché parce qu'ils ont trop souvent servi de butt plug.
Et
c'est ça.
Shout out à Karen. Et bien sûr, le dernier gagnant, et non le moindre, Dungeons and Dragons.
Yes!
C'est pas de la lutte, là, t'as pas le droit de faire yes. Ah. Alors, Nicolas Ricketts, le curateur du musée, présente l'accent sur l'imagination, la coopération, la création d'histoires riches et la recherche de solutions créatives comme les vertus du jeu qui lui a valu cet honneur.
Par la balançoire, là.
Ouais.
Ouais.
Alors, les vénérables jeux le vénérable jeu de rôle rejoint une liste assez courte de jeux et de jouets qui comprennent, ben, qui comprennent, dis-je, Lego, les G.I. Joe, le Slinky, le Game Boy, les dominos,
okay.
Le ballon, le bâton, les couvertures et la boîte de carton. Ouais.
Mais au moins, il s'améliore. Je veux dire, d'année en année, les jouets sont de plus en plus intéressants.
Ben, il y avait balançoire, c'était.
Mais tu sais, en même temps, je pense que des fois, il faut revenir à la base. Puis jouer avec des couvertes, un bout de bois, puis un ballon.
Et voilà. Ben,
c'est oublié.
Il y a un petit, tu sais, un petit texte pour chacun des intronisés. Puis évidemment que, tu sais, comment on a tout joué avec une couverte, on a tout joué avec une boîte en carton.
Puis il faut juste avoir des enfants pour se rendre compte que si son jeu vient dans une grosse boîte, il passe une heure à jouer avec la boîte.
Et voilà. Ouais. Fait que malheureusement, M. Gigax n'est plus parmi nous, en fait, pour recevoir les honneurs. Mais je crois pas, anyway, que l'arbre responsable du premier bâton ait pu se présenter non plus. Anyway, pas de quoi se vanter, là, ça fait juste un D4 de dégâts. Là, fait que... Et monsieur...
chapeau.
Et monsieur Carton n'était pas là non plus pour l'intronisation de sa fameuse boîte.
Carton.
Alors, allons voir où on en est dans la pétition « Un amiibo pour Karen ». Alors, on a annoncé dans le dernier épisode que nous lancions une campagne pour obtenir un amiibo à l'effigie d'un personnage mis en vedette dans le premier trailer de la Nintendo Switch. Et plusieurs d'entre vous ont répondu à l'appel. Mais avant d'aller à vos témoignages touchants, hein, j'explique pour ceux qui n'ont pas suivi tout le processus. Lors du deuxième épisode de La Causeuse, notre mini-podcast, on a professé notre amour pour un personnage qui s'est vu nommer Karen par l'intelligence collective de l'Internet, mettons.
Faut le dire vite.
Avec un peu de dédain. C'est la fille là, qui, vers la fin du trailer, joue avec sa Switch dans son immense loft. Elle a un look un peu rétro, là, années 50, avec une coupe de cheveux appropriée. Ensuite, elle se fait inviter par d'autres jeunes gens cool sur le toit de l'immeuble voisin et elle les rejoint en amenant son Nintendo, comme diraient nos parents. On le sait bien que les publicités, ben, c'est pas la réalité. Là. C'est un peu socialement inapte comme move de traîner son joujou quand personne te l'a demandé. Ou pas, là, on est vieux puis déconnecté de la réalité, là, dans le fond. Là. Puis, mais bon, être socialement inapte, c'est ce qu'on s'est fait dire qu'on était les gamers de notre génération. Puis vu qu'on était incapable de se faire une opinion de nous-mêmes, par nous-mêmes, ben, on a décidé d'adopter Karen comme l'une des nôtres.
Ah oui.
Alors, vous avez répondu à notre appel par fraction significative de dizaines, je dirais même par unité, et vous avez ouvert votre cœur, socialement inapte, et partagé avec nous ce que représente Karen pour vous. Stéphane Demers avait ceci à dire. Pourquoi faire un amiibo d'une figurante random dans un reveal de console de jeu, alors que plein de personnages comme Foreman Spike, le dude louche là, dans Wrecking Crew, ou Captain Syrup, la fille pirate weirdo d'un jeu de Wario,
okay.
N'attendent qu'à être reproduit en plastique et à être utilisé pour débloquer de la marde dans un jeu en 720p. Parce que Karen n'est pas qu'une simple figurante sans nom qu'Internet a décidé de baptiser pour le fun. Karen, c'est nous. Combien de fois êtes-vous allé dans un regroupement de gens normaux pour forcer votre nouveau gadget profondément dans la gorge de tout le monde? Peut-être qu'à première vue, personne ne voulait comprendre que c'était une innovation incroyable de souffler dans un micro pour gonfler des ballons dans mode battle. Mais Karen, elle avait compris. On n'aura jamais d'amiibo à notre effigie, dont les calices d'amis ne comptent pas. Et Karen est notre seule vraie chance d'être représentée sous une forme qui nous inclut tous et toutes, sans aucun compromis.
C'est des sages-paroles.
C'est beau.
Alors, on a Jean-Philippe Rochette, connu affectueusement sous le nom de J.P. Roach, par absolument personne, s'il y a de la justice dans ce bas monde, renchérit en disant que Karen est une figure aussi importante pour les fans de Nintendo que la première dame pour les Américains. Martin Forget, notre plus récent donateur sur Patreon, pour sa part, part sur un monologue que je ne peux qu'attribuer à une trop grande consommation de substances illicites, mais révèle un point valide en suggérant que la coupe de cheveux de Karen fait rire de son ami Beau une excellente butt plug, un peu comme les Little People de Fisher-Price. Bon, ouais, ça a été dit ben, par deux fois même. Il finit en relevant le même fétichisme de la culture américaine que M. Rochette en disant que le amiibo de Karen doit être vu comme un symbole, tel la Statue de la Liberté, de bon goût, que nos descendants regarderont avec émotion et envie. On ne peut qu'espérer, M. Forget, on ne peut qu'espérer. Alors, on continue le combat. Joignez-vous à M. Demers, Rochette, Forget et témoignez votre support pour Karen et obtenons ensemble un amiibo pour Karen.
On l'a, la petite ligne de base. Donc, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans l'univers de Divan Quest, encore une fois, pas mal de repacks puis de choses du genre au niveau gaming. Là. Si on regarde le 22 novembre, oui, The Amnesia Collection au PS4, donc un repack de Amnesia là, de Dark Descent, je pense, avec les expansions. Bref, je jouerai pas à ça, moi je baigne trop chicken. Là, mais, Sinon, il y a Darksiders War Mastered Edition PS4 puis Wii U Xbox One.
Ils ont tellement des noms terribles pour les
pompeux.
c'est très très self-aware. Ils sont au courant du ridicule. Ouais. Darksiders 2, c'était The Definitive Edition. C'est terriblement bon.
Hein? Ça sort aussi le 29 sur Windows, mais quand même, c'est des bons jeux. Fait que c'est pas un... Si tu les as pas, puis je pense qu'ils sont upgradés en 1080p. Mm-hmm. Bref, c'est quand même intéressant pour ceux qui les auraient pas ou qui veulent rejouer. Sinon, 29 novembre, Final Fantasy XV au PS4, Xbox One. Mais pour vrai, je m'ennuie des anciens. Là. J'avoue, je suis un hipster des Final Fantasy.
Bon.
2 décembre, Super Mario Maker au 3DS.
Ah oui, c'est vrai.
Que j'ai hâte de voir ce que ça donne comparativement à celui de la Wii U. Peut-être que c'est quand même ça. Sinon, assez tranquille. Hein? C'est surprenant avec Noël qui s'en vient, qu'il n'y a pas plus de nouveautés, quelque chose qui sort qui est intéressant. Mais...
Nintendo est ben trop occupé à ne pas produire assez de NES Classic Edition. Ça.
Ça vaut pas un beau menhir, ces pyramides.
Encore ce thème-là?
Mais oui, qu'est-ce que je te dis? J'ai oublié de le changer.
Ben, cette semaine, j'ai joué un petit jeu super intéressant qui s'appelle Cluster Truck.
Vous allez revenir avec notre Tetris.
Notre Tetris 2. Non. Cluster Truck. Cluster Truck, c'est un jeu indie, un jeu de plateforme indie développé par un développeur, forcément.
Indie.
du nom de Landfall Games. C'est un jeu que j'avais remarqué jadis sur Internet, si je dis là, quelques mois, c'est jadis, right?
Oh ouais, ça va.
Sur Reddit, là, sur les subreddits de développeurs, où quelqu'un qui avait dit « Ah, j'ai fait un tech démo, regardez ce que ça donne, avez-vous ça? » Ça l'a pris un petit peu, puis finalement, ils ont fait un jeu complet. Fait que c'est peut-être un tech démo glorifié, mais il y a quand même beaucoup de plaisir à avoir avec ça. Donc, dans Cluster Truck, on parle d'un jeu où, on contrôle à la première personne, on doit jouer une version de le plancher et la lave, où le plancher est en feu, sur le dos de camions qui roule à toute vitesse vers une ligne d'arrivée et il faut se rendre sans toucher au sol.
Bon, ben, tu peux arrêter de parler immédiatement. C'est Game of the Year.
Moi, j'en vais jouer tout
exactement.
De suite.
Donc, c'est la prémisse du jeu. Donc, on se retrouve dans un sorte de puzzle physique un petit peu qui est très bien défini en fait par le titre du jeu, mais, ou plutôt par le jeu de mots avec lequel le titre est fait qui est basé sur Clusterfuck.
Donc, oh mon Dieu.
Une chance de l'expliquer.
Mais pour ceux qui ne savaient pas, c'est quoi un clusterfuck? C'est une situation chaotique où tout semble aller mal et où il n'y a pas l'air d'avoir de solution.
Ce qu'on appelle une commission scolaire. C'était pour toi, Dan.
Donc, tous les jeux commencent de la même façon. Tous les tableaux commencent de la même façon. On apparaît sur le dessus d'un camion en mouvement. On voit une ligne d'arrivée là, au loin et on doit s'y rendre le plus rapidement possible. Plus on s'y rend rapidement, plus on fait de points. Plus on s'y rend en faisant des stunts. Donc, exemple de stunt, si on saute sur des camions qui sont en plein vol, parce que ça arrive, on fait plus de points. Donc, si on atterrit ou si on atterrit et on quitte ce camion-là avant qu'il touche le sol, on fait encore plus de points.
Si tu joues au tableau qui se passe sur l'autoroute 15 à l'heure de pointe, tu fais quasiment pas de points parce que ça bouge pas en toi. Tu peux juste marcher.
C'est vrai.
C'est bien trop facile.
C'est un walking simulator.
Un simule marcheur.
Oh, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc. Comment aller où avec ça?
Avec ton simule marchage.
Mon simule marchage, oui. Non, donc c'est ça. On fait des points aussi, par exemple, pour le plus longtemps, on va rester dans les airs. Donc, on a un genre de hair time combo qui va se faire. Et le jeu est complètement fou et déjanté, ça fait aucun sens. Le jeu qui commence toujours super simple, où bon, je suis sur un camion, il y en a un autre là, je vais juste sauter dessus. Au début, c'est facile. Les premiers tableaux sont super simples. Il y a même un tableau que j'ai, comme le troisième ou le quatrième, que j'ai passé en restant sur le camion où j'étais et j'ai pas bougé. Il m'a juste emmené jusqu'à la fin.
Yeah, fuck tout.
C'est une métaphore pour la vie. Si ouais. tu veux pas de points de cascade, tu peux quand même arriver à ton résultat.
Voilà. Mais rapidement, ça devient beaucoup plus complexe que ça. Parce que rapidement, on se retrouve avec des camions qui vont en ligne droite vers un précipice. Et il faut profiter du temps où ils se jettent dans le vide pour avancer d'un camion à l'autre pour pouvoir sauter sur l'autoroute qui est plus loin, sur d'autres camions, parce qu'il ne faut jamais toucher au sol, ni aux arbres, ni aux roches, ni aux obstacles. Tout est en lave, on va dire. Et donc, pour continuer sur le tableau, sur l'autre route à côté, c'est pas facile. J'ai dit plusieurs fois des fuck,
des gros mots.
des explicites.
Sans le cluster.
t'as beaucoup troqué. Ouais.
J'ai beaucoup troqué, exactement. Ça peut même être frustrant des fois, mais ce qui est intéressant, c'est que plus on fait de points, donc plus on persévère, on finit par gagner des points tranquillement, et on peut acheter des habiletés spéciales. Et là, le jeu prend tout son non-sens, si on peut dire ça comme ça. Exemple d'habileté, on peut gagner un double saut, on peut gagner un dash qui nous permet comme d'avancer rapidement sur quelques mètres vers l'avant et la capacité de ralentir le temps pendant quelques secondes. Puis toutes les habiletés viennent avec un petit effet sur le jeu ou sur l'environnement du jeu qui sont écrits dans les habiletés. Par exemple, ralentir le temps va dire, bon, l'habileté permet de ralentir le temps durant, mettons, 5 secondes, mais manipuler l'espace-temps a toujours des conséquences sur notre environnement. Donc, dès qu'on manipule ou qu'on ralentit le temps, ça devient extrêmement chaotique. Là. On dirait que les camions sont tout croche, ils se passent un par-dessus l'autre, il y en a qui vont juste exploser, voler dans les airs.
Fait que c'est un échange.
C'est un échange. Ça te sauve la vie quand t'as besoin d'être précis, mais une fois que tu vas avoir atterri, là, tu sais plus dans quoi tu te retrouves. Là. Il y a des explosions, t'as des camions au-dessus, en dessous. Tu peux...
ça devient un cluster truck.
Et ouais. Voilà.
Fait que c'est... On a un beau feeling d'être dans le deuxième film, La Matrice, quand ils sont sur les toits des camions sur l'autoroute puis qu'ils passent d'un camion à l'autre. Plus beaucoup d'explosions, puis c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que t'es pas obligé d'arriver à la ligne d'arrivée sur le camion. Tant que t'arrives à la ligne d'arrivée. Fait qu'il y a plusieurs tableaux que j'ai juste réussi en faisant comme... Oh. Fuck it. Truck it. Truck it. Je vais juste sauter puis me rendre. Il y a même un tableau que c'est la seule façon de le terminer. Fait que c'est pas un jeu qui est super complexe, mais j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec ça. On a parlé souvent quand un jeu est basé sur ses mécaniques, t'as pas besoin nécessairement d'avoir une narrative pour que le jeu devienne intéressant. Puis c'est un bel exemple. Est-ce que c'est un tech démo glorifié? Oui. Mais c'est un tech démo qui est bien fait quand même. Puis je trouve ça intéressant de l'approche où il y a clairement beaucoup de réflexion qui a été mise dans le design des tableaux, à créer des puzzles. Par exemple, les camions vont aller à gauche, mais la ligne d'arrivée est à droite. Comment tu vas naviguer? Mais à travers tout ce souci-là, tu sais, souvent, quand on va voir du puzzle design dans un jeu, il y a une solution. Dans Cluster Truck, tous les outils qui sont à notre disposition, c'est plutôt l'inverse. Ça ne nous aide pas à résoudre les puzzles. Ça nous aide à avancer, mais ça complexifie les puzzles. Fait, y a un petit côté qui vient clairement là, du fait que le développeur a utilisé l'engin Unity. On a déjà parlé à quelques reprises, on a déjà passé des commentaires sur la physique de Unity.
Ouais, mais... qui est un peu difficile à coerce, là, à faire ce que tu veux qu'elle fasse. Ce qui arrive pas, là.
Puis un petit peu aléatoire aussi à l'occasion. Mais ça donne une richesse à ce jeu-là. Parce que c'est ça qui rend le jeu intéressant, finalement. Donc, tous les outils qui sont à disposition, le double jump, le dash ou le ralentir le temps, ça a un effet sur l'environnement, ça complexifie je veux dire, le layout ou de quoi les véhicules ont l'air sur la route. Mais t'as pas le choix de t'en servir. Donc, tu reviens avoir un choix à faire entre est-ce que je m'essaie de juste sauter sur le véhicule en avant ou pour être vraiment certain de me rendre, parce que ça fait au moins 33 fois que je recommence, je suis vraiment tanné, est-ce que je ralentis le temps? En sachant que ralentir le temps, ça va vraiment me compliquer la vie pour que je vais arriver là-bas en avant.
Fait que c'est un équilibre entre à quel point t'es trucking tanné puis à quel point tu veux réussir.
Exactement. Mm. Fait que c'est toujours intéressant quand un jeu simple amène des notions de choix comme ça, puis utilise bien des outils à sa disposition. Donc, c'est quelque chose que vous tente d'essayer. C'est un jeu qui est pas très, très cher.
Je pense que j'ai vu une quinzaine de dollars.
15 dollars US, là, donc, sur les plateformes.
Ben, 199 canadiens sur Steam en ce moment. Il est aussi disponible sur Linux, OS 6 et sur le PlayStation 4. Donc, ça vous tente de d'expérimenter un cluster truck. Ça va devenir un nouveau running gag.
On peut juste espérer.
Donc, cluster truck sur toutes ces plateformes-là, ben, c'est un bon 45 minutes de frustration.
Tu donnes-tu des pattes de divan?
Pas encore. Je vais jouer encore, puis je vais penser aux pattes que je vais donner.
Pour l'instant,
tu nous updateras sur la situation de ton divan.
Je vais donner un cluster fuck de pattes de divan.
Débrouille-toi que ça, là, puis trouve-toi-en.
Alors, on voulait remercier cette semaine notre nouveau donateur Patreon, l'amateur de bot plug de Karen, monsieur Martin Forget. Alors, merci à Martin et à tous nos autres donateurs qui, justement, cette semaine, ont permis de payer le maudit hébergement et le renouvellement du nom de domaine sans que j'aille à débourser de ma Porsche.
Yay!
Ce qui fait du bien quand même.
Quand même.
De ta Porsche?
De ma Porsche.
Toucher devant sa Porsche, payer le domaine, ça coûte cher.
Hein, une chance qu'on a un Patreon. Hein.
Aujourd'hui, dans l'univers des Divan Quest, 21 novembre. C'est le fun, je l'ai dit comme faux, cette fois-là. Je commençais en 1782. Premier vol habité officiel en Montgolfière. Pourquoi je dis officiel? Ben, il y a un auteur russe, Alexander Soulakadev, en tout cas.
Je jouais pas pour les Maple Leafs, lui, en 67.
En 1767, ouais.
C'est ça, oui.
En tout cas, il aurait décrit dans une lettre le vol d'un gros ballon rempli de fumée impure qui se serait produit en 1731. Réalité ou fiction, qui sait? Par contre, on sait qu'en 1782, Jean-François Piâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande ont fait un petit tour de gros ballon. J'avance en 1877, Thomas Edison annonce l'invention d'une machine qui peut enregistrer et rejouer du son, le phonographe. Yeah. 22 novembre, donc le lendemain, M. Edison envoie un de ses plus proches amis un enregistrement d'un gag de Bat. Il se trouve bien drôle à part ça. Le
coq. C'était le premier ancêtre direct de Divan Quest.
De Divan Quest, voilà. 1905, publication d'un papier d'un certain monsieur Einstein qui s'intitule « Est-ce que l'inertie d'un corps dépend de l'énergie qu'il contient? » C'est le fameux E égale MC2. 1920, événement de la guerre d'indépendance irlandaise qui est connue sous le nom du Bloody Sunday, pendant lequel 14 agents britanniques ou leurs informateurs, puis aussi d'autres personnes là, qui n'auraient pas eu d'engagement politique, sont assassinés par l'armée républicaine irlandaise. En réplique, les forces britanniques ont ouvert le feu sur la foule pendant un match de football.
Yay!
En réplique, U2 a composé une chanson.
Ouf! S'il y a quelque chose qui peut être déclaré un acte de guerre.
Un moment noir de notre histoire.
Laissez Bono chanter. Empêchez Bono de chanter. Oui, Dan!
1945, publication du premier numéro du magazine Elle en France. Près de 71 ans plus tard, le magazine publie un merveilleux article sur le Canadien Ricardo Larrivé, hein, qui nous apprend que ce gentleman trappeur sacrifie traditionnellement un porc et le congèle en plein air pendant qu'il ne pense qu'à s'enduire des sirops d'érable. Les clichés ont la vie dure.
Tabarnak.
By the way, l'article existe comme plus vraiment sur Internet. Il y a un article d'excuse maintenant. C'est triste. J'avance en 1985, sorti d'un grand classique au NES au Japon, Mike Tyson's Punch-Out.
Hey, mais au Japon, c'était pas Mike Tyson's Punch-Out.
Non, mais pour vrai, c'est vraiment un jeu auquel je m'attends pas.
Punch-Out!
Mais je savais pas que c'était lui qui était le premier, puis que c'est comme la deuxième version qu'on rééditait avec
Mr. Dream.
Mm-hmm. Sinon, en 1990, 5 ans plus tard, c'est la sortie de la Super Famicom au Japon, hein, cette console mythique, s'il en est une, pour notre génération. Et elle va prendre sa retraite, encore au Japon, en septembre 2003. 13 ans plus tard, là.
Contrairement à la Wii U.
C'est quand même une longue carrière.
Un
an après la sortie de la console, toujours au Japon.
Le sound chip du SNES, là. Calique que c'est beau.
Moi, j'aurais laissé à tout nous jouer pendant. J'avance un an plus tard encore, au NES et au Game Boy, sorti de Yoshi's Cookie. Mais ouais.
Ouais.
2 ans après la sortie d'une console de nouvelle génération, on sortait encore des jeux sur l'autre console. Maintenant, on dirait que Nintendo fait le contraire, puis que 2 ans avant la sortie d'une nouvelle console, ils arrêtent de faire des jeux sur l'autre console d'avant, là.
Ah oh ben, ils font encore des jeux quand les gens jouent encore à la console.
Ah, c'est peut-être ça. En même temps, en 92, Sonic the Hedgehog 2 sur Genesis et sur Game Gear. Man, on s'ennuie-tu de ce gars-là, Nintendo, Sony, hein, quand même? What Nintendo?
Ces gars, c'était cool.
Ah ouais.
Jamais eu une.
Ça va être des jeux gratuits de sport.
Voyons, Dan, tu t'entraînes de faire un ACV encore?
Ouais, c'est la pub. Là.
Je pense qu'il y avait des jeux de lutte, c'est pour ça.
Non.
Pas à sortir. J'avance en 95, sortie de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest sur Super Famicom et Wipeout au PS1. Pas le jeu avec les grosses boules rouges, là, le jeu avec les courses futuristes. Là.
Oui.
Ouais. Sinon, j'avance encore en 98. 6 ans après la sortie sur Super Famicom, on lance le volet suivant des aventures de Link avec Ocarina of Time au 64. Bon, je sais que c'est pas le volet suivant, là.
Excusez, il fallait.
Mais je l'ai bien aimé.
Ah, je suis pas capable.
Je rentrerai pas dans la patente là, qui est la timeline de Zelda. Je vous posterai ça sur les réseaux sociaux, puis vous saignerez du nez tout seul chez vous. Encore en 98, Tomb Raider 3 sur PS1. Ah. 99, Pokémon Gold Silver sur Game Boy Color. Puis là, j'arrête là parce qu'il y a un shitload de sorties de jeux le 21 novembre, un peu partout. Ça paraît en maudit que les fêtes arrivent un mois plus tard.
Happy birthday to you.
Anniversaire de naissance qui date de 1694 de Voltaire.
Ah.
Un des grands philosophes de l'époque des Lumières, très connu pour son combat contre le fanatisme religieux. Aux dernières nouvelles, plusieurs personnes espèrent sa réincarnation aux États-Unis pour balancer le discours pro-avortement et pro-armes de notre 45e POTUS.
Éditorial.
Ça m'arrive. En 1898, naissance du peintre belge René Magritte, qui, en écoutant notre podcast, s'est dit « Ceci n'est pas un podcast ». Je ne sais pas encore ce que ça voulait dire, mais on est d'accord.
Sac.
1958, naissance de l'actrice québécoise Sophie Lorrain, qu'on n'a comme pas revue depuis qu'elle a joué dans Fortier.
Ah, ouch. C'était cheap, ça.
Ouais, ça m'arrive. Ça aussi. 1969, naissance du gars de la pochette de jeu de baseball, là, au SNES, là.
Monsieur Ken Griffey Jr.
Yes. Et en 1977, naissance de la politicienne québécoise Yolande James, qui est passée si proche de la célébrité. Si seulement son nom avait été...
Yolande Wine, viens à mon mariage. Yolande Wine, je t'aime Yolande Wine.
C'est-tu calice.
Puis je finis ça en 1983, juste pour moi celle-là, naissance des jumelles Bella, Nikki Bella et Brie Bella, les lutteuses professionnelles, qu'on peut voir aussi avec leurs maris respectifs, John Cena et Daniel Bryan, dans le super show de télé-réalité Total Bella.
Attends une minute.
Ouais, là-dessus, je suis d'accord.
Attends, je vais en prendre une autre. C'est bon.
Quand même. Et voilà pour l'univers de Divan Quest. Blades of Steel.
Ici à Divan Quest, on n'a pas peur d'innover et de faire avancer l'art qu'est le podcasting. C'est pourquoi j'ai décidé de... Vous avez pas de lasseur, OK? C'est pourquoi j'ai décidé de faire, en direct sur le show, un déboîtage de produits. Ce que les gens sur les YouTubes appellent un unboxing. Alors, je vais ouvrir pour vous.
Ça va être intéressant, ça.
Ben oui. Hein? Je peux pas croire que t'en doutes. Je vais ouvrir pour vous la Nintendo New 3DS Super Mario 3D Land Edition. Un nom qui coule en bouche. Fait que je vais commencer avec la boîte de shipping. Là. Attends deux minutes. Là. Non, c'est correct. Attends, je vais pogner mon exacto là, parce que le tape, il fait juste comme fucking étiré. Là, puis genre, il casse pas.
Attention, pas de couper.
On coupe jamais vers les doigts.
Merci pour les conseils de sécurité. Faut faire attention pour pas se couper, tu sais, parce que la sécurité c'est important. Tu voudrais pas ouvrir ton gadget puis mettre plein de sang dessus puis peut-être genre mourir avant de t'en servir là. Puis en tout Fait que là, comme, ben là, j'ai comme plus de main pour tenir ça. Fait que, attends une minute, faut que je tasse le micro. Voyons. Non, c'est correct, c'est beau, je l'ai.
Ouais, excuse-moi, habituellement, là, ouais, c'est là que j'arrête d'écouter ces vidéos-là, moi.
T'es cassé, toi.
Non, mais come on, là, c'est... Là, écoute, en vidéo, c'est pas écoutable. Imagine en audio.
Ben là, ouais, c'est une super bonne radio.
Ben là, pourtant, j'ai fait mes devoirs là, pour que ce soit bon. Là, j'ai checké plein de vidéos d'unboxing pour savoir comment faire. Il me semble, je m'excuse, mais je l'avais vraiment pas payé.
Ben, on t'avait dit que t'étais préparé.
Mais gars, je vais vous checker, gars, je vais vous lire mes notes. Là. OK, bon, hein, c'est pas payé. Oups, j'ai appuyé ma 3DS. Bon, premièrement, c'est important de décrire l'emballage et le carton parce que c'est un unboxing, c'est un déboîtage.
C'est vrai que du carton, il faut en parler beaucoup. Ben, c'est quand même dans le Hall of Fame.
Ben, voilà. Fait que le monde qui écoute ça, des unboxings, ils ont des fétichismes des boîtes, c'est clair. Là. En tout cas, c'est ce que j'ai appris quand j'ai écouté un des unboxings de Nerf Boy Productions.
So, we'll just put the box down on its face. I'm gonna cut away from myself because you know what you're supposed to do. And we will open this up. I always like Nerf boxes that are this kind of style where you can open up the side and it's not like a open face where it's like it unfolds. This is more fun to unbox where you get to pull it out. So it's two pieces of cardboard, and in this piece, which is now empty, we have the instruction manual, which is...
When you can just pull it out.
you put it on her face.
Non, mais il y avait un bon conseil de sécurité que Jeff avait déjà donné. Hein?
Suite des idées.
Et voilà, tu pourrais consulter pour Nerf Boy Productions. Fait que ensuite, si c'est un unboxing vidéo, ben il faut pas se soucier là, de préparer la position de la caméra. Ça rend ça plus authentique.
Ben oui.
Le pire qui va arriver, là, c'est que la caméra va être bien proche d'un sac qui fait bien du bruit quand tu essaies d'écouter. Là. Mais ça aussi, authentique, comme ça.
Just leave the camera right here. Well, I don't. So we just want to cut off the packaging. Some scissors. Just the camera. So we're just going to cut open the package. Here it is. We're just going to cut it open.
La bonne radio, ça, mesdames et messieurs.
Non, mais à son âge, j'ai des ciseaux avec des bourrons. Hein?
Moi, j'ai de la misère à donner la crédibilité à du monde qui sont plus jeunes que mes élèves.
Puis si jamais, pendant votre unboxing, il y a quelque chose que vous savez pas c'est quoi, c'est tout à fait normal. Là. Ça demanderait de la préparation, puis on n'est pas là pour ça. Fait que prenez un guess, puis corrigez-vous. T'sais. Aussi, prenez le temps de lire les petits bouts de papier qu'il y a dans les instructions en silence. Comme ça aère la vidéo. Un autre truc, si jamais vous devez manipuler la caméra, commentez sur le fait que vous faites pas de montage. Ça ajoute encore au naturel de tout ça. On a un exemple ici de la part de Benji76 Show.
What's this? Oh, I guess it's a little stand as well.
Et là, on lit.
En silence.
Yeah, so here is... the next package, and let me cut this tape off of here. Set you down for just a second. I don't like editing.
C'est bien trop de travail.
Sorry.
Sorry, I don't like editing. Hein? Coupez ça au montage.
Tu sais. Continue, là. Je comment rentrer plus tard.
Mais c'est comme un jeu intéressant, c'est essayer de deviner qu'est-ce qui déballe. Juste au son, comme ça.
Moi, depuis le début, je me dis c'est toutes des sex toys.
Il y avait un stand pour ça, là.
Il y a un étau.
Un manuel d'instruction pour le stand.
Ouais.
En fait, je peux répondre à vos questions. Le premier, de Nerf Boy Production, c'était un gun Nerf, bien sûr.
Ah, OK, ouais.
Le deuxième, c'était un kid qui avait genre acheté un Game Boy sur eBay. Mais c'était pas une boîte, là, c'était juste un sac avec un fucking Game Boy.
Il a comme unboxé quelque chose que quelqu'un y a packé, là.
Il a unboxé quelque chose.
Pré-unboxé.
Il a unboxé quelque chose qui avait pas de boîte. tout cas. Et le Ben G76, le plus récent, c'était une console custom que Rose Colored Gaming, la compagnie de trucs de gaming personnalisés finalement, ont fait. Puis il y avait un petit stand qui venait avec la console. Ensuite, on a DJS, qui nous montre aussi que c'est pas important d'avoir la moindre maudite information sur le produit pour en parler. C'est un unboxing. Oui. L'important, c'est le déboîtage. Fait que souciez-vous pas trop de quoi vous parlez. Hein? Dans ce cas-ci, on déboîte un... c'est une commande de chez Monoprice, tout simplement.
Boîte de fil.
De la shit de chez Monoprice.
Wasn't overly too expensive, but look at how nice of a mouse this is. What is this thing? Let's see if I can get it to... There's the thing.
Fait que c'est this is the thing.
The thing.
Puis en fait, il est tellement infiniment divertissant, ce maudit-là, que j'ai un autre extrait du même déboîtage de produits.
La même commande?
La même commande.
This will be the gaming mouse. I'm excited to give it a try. And just to let you guys know if it's any good. I'll try to do a follow-up and let you guys know if any of this stuff is any good.
Fait bien sûr, il fait juste le déboîtage. Il n'y a aucune critique, il n'y a aucune appréciation du produit. C'est, ben, je reviendrai plus tard.
Tu sais, au minimum, tu te déboîtes, là, après ça, tu le testes, tu reviens avec un. Non. Moi, je comprends pas. Je suis peut-être trop vieux, là, mais je comprends pas.
Non, mais pourtant, c'est ça que j'ai ma 3DS. Fait que, ben, j'aurais bien prévu une fin à ce segment-là, mais dans l'esprit des déboîtages disponibles sur YouTube, j'ai décidé que c'était ça.
Réflexion.
Sur le modèle corallien de colonisation galactique.
Ah, j'en parlais justement au souper. Hein?
Mais c'est intéressant que tu dis ça. Parce qu'en fait, j'ai plutôt parlé du physicien italien Enrico Fermi.
Ah, j'en parlais justement au déjeuner.
Qui, en 1950, a eu un débat avec ses amis autour d'un repas, autour d'une table, avec ses amis physiciens. Bon, il a débattu du modèle corélien de colonisation galactique, qui est d'aucun intérêt à la suite de la réflexion, donc je vous laisse découvrir vous-même de quoi ça parle. En fait, M. Fermi, qui est un récipiendaire du prix Nobel en 1938 et qui a été impliqué dans le projet Manhattan.
Hey, t'es en train de me voler ma job, toi, là?
je parle juste de lui.
Okay. C'est pas aujourd'hui.
Okay.
Donc, récipiendaire du prix Nobel, impliqué dans le projet Manhattan, pour le bien ou pour le pire, reste que... Le monsieur a un certain QI, c'est ce qui est important ici, a posé en 1950, dans un débat autour de la table avec ses amis, la grande question que tout le monde se pose. Donc, s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Donc, où sont-ils? Clairement du monde qui hangout avec nous autres à l'Albion.
Ouais,
mais en fait, sa réflexion fait quand même du sens parce que la vie s'est répandue sur Terre, partout, même dans les endroits les plus hostiles. Puis les civilisations sont répandues dans tous les environnements puis sur tous les continents dès que la technologie l'a permis. On a traversé l'océan quand on a eu les bateaux, on était sur la Lune quand on a pu le faire. Donc, selon toute logique, ce processus d'expansion-là devrait s'appliquer à la conquête de l'espace. Donc, toute civilisation intelligente, suffisamment avancée, devrait finir par quitter sa planète puis explorer ou coloniser les étoiles les plus proches puis éventuellement la galaxie. Ça prendra des millions d'années, ça devrait arriver. Ce qui se passe ici, c'est que notre Soleil est quand même jeune par rapport au reste de l'univers. Il y a énormément de soleils qui sont beaucoup plus vieux. Il y a énormément d'endroits qui auraient déjà eu ces millions d'années-là pour se développer. Donc, où sont les extraterrestres qui ne nous ont jamais visités?
Je pense qu'on a des vidéos d'unboxing sur YouTube.
Attendez une minute que je dépose ça, là.
Donc, mais en fait, il y a trois possibilités là, qui s'imposent. Soit il y a de la vie ailleurs, puis on va éventuellement la trouver. Peut-être, on l'espère. Soit il y a de la vie ailleurs, puis ils se cachent de nous pour une raison quelconque. Donc, parce qu'ils sont trop avancés ou...
Qu'ils ont vu les vidéos d'unboxing sur YouTube.
Peut-être. Donc, peut-être que pour nous, ça serait considéré comme des dieux, peut-être, tellement vu leur avancée. Peut-être pour ça qu'on ne peut pas les détecter. Mais... celle qui nous fait un peu plus peur, c'est qu'il n'y a pas de vie nulle part ailleurs où aucune civilisation n'a atteint le niveau de technologie qui permet le voyage ou la communication interstellaire. D'où le concept qui m'intéresse aujourd'hui, qui est le concept du grand filtre, en fait. Ou en anglais, le great filter, concept... Oui?
Ça, c'est quand tu fais une maudite grosse bâche de café, mettons,
un gros café, c'est ce qu'ils font le matin chez Tim Hortons.
Ils en font un pour la journée.
Sors le grand filtre!
C'était tombé comme safe, comme joke, ça, c'était carré. Ça en prend de temps en temps.
C'est toujours une campagne. Le grand fil, c'est un concept qui est introduit par un économiste américain du nom de Robin Hanson. Robin Hanson, je pense.
Probablement.
En 1996, donc c'est quand même assez récent. puis ça s'inscrit dans une longue, dans des longues discussions sur la recherche extraterrestre puis la philosophie de qu'est-ce qui se passe avec ça. Et la question du grand fil, c'est ce filtre-là, quelque chose qui filtrerait les civilisations puis qui les empêcherait d'atteindre le voyage ou la communication interstellaire, ben, il peut être soit devant nous ou derrière nous. Exemple de fil qui pourrait être derrière nous, ben, les scientifiques disent peut-être que l'apparition de la vie unicellulaire sur une planète, c'est un fil. Peut-être que c'est impossible. Mais à ce moment-là, nous, on l'a fait, donc on a peut-être traversé ce filtre-là, puis on va peut-être être les premiers à atteindre le voyage à travers l'espace. Mm-hmm. Peut-être que c'est la vie multicellulaire qui est un filtre. Peut-être que c'est le développement d'une langue universelle qui permet de communiquer avec tous les habitants d'une même planète qu'on a aussi dépassé. Donc, si les fils sont derrière nous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va un jour conquérir l'univers. Là, ce qui fait peur, c'est si le filtre est devant nous, justement. Si c'est quelque chose qui nous attend dans le futur, on peut parler peut-être d'une guerre nucléaire qui détruirait toute notre civilisation. On peut parler du développement de la singularité, d'une intelligence artificielle qui deviendrait folle puis qui détruirait tous nos efforts et toute notre civilisation. Donc, ça peut être devant nous. Enfin, c'est ce qui amène la question de est-ce qu'on veut vraiment trouver de la vie sur une autre planète? Parce que si jamais on trouve, si on va sur Mars puis on découvre une forme de vie unicellulaire, ça veut dire que ce n'est pas un filtre. Donc, le filtre a une chance de moins d'être derrière nous. Donc, il risque d'être devant nous. Mais on s'approche, malheureusement, super rapidement d'un de ces filtres-là, qui est probablement le seul qui est d'un intérêt pour la civilisation comme on la connaît aujourd'hui en 2016. C'est l'avancée de la civilisation qui va challenger l'écosystème planétaire puis nous mettre en danger. En fait, on va détruire notre écosystème qui est notre berceau, qui nous donne la vie présentement. Donc, on parle ici du changement climatique, évidemment. Ce qui est un sujet qui est particulièrement d'actualité avec M. Trump, qui a gagné les présidentielles américaines, qui prévoit nommer dans son comité de changement là, Myron Ebel à la tête de tout ce qui est l'environnement. Myron Ebel, qui est un produit de Washington puis de l'establishment de Washington, qui est un défenseur fier de l'inverse total, finalement, des mouvements anti-réchauffement planétaire et tout ça. Qui, lui, pour moi, c'est un mouvement qui est alarmiste, qui est dépassé. Puis pour lui, les gens qui œuvrent à sauver l'environnement, c'est des gens qui veulent juste avancer leurs propres intérêts politiques à travers ça, finalement. Comme si c'était une arme politique. Donc, on parle de quelqu'un qui essaie de défendre ou qui a au Sénat essayé de passer des lois pour ouvrir les terres fédérales à faire plus d'exploitation forestière, l'exploitation minière, les gaz. Donc, à plus utiliser encore nos ressources au lieu de diminuer ou de mieux les gérer finalement. Donc, on met quelqu'un comme ça dans une position de pouvoir. Évidemment, ça a de quoi faire peur et ça fait un peu bouger les choses. Surtout que déjà depuis plusieurs mois, je dirais que dans la dernière année, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je vois des scientifiques faire ce qu'on appelle des AMA, des Ask Me Anything sur Reddit, puis qui viennent sonner l'alerte, qui viennent lever un drapeau, dire « OK, là, il est temps qu'on s'allume parce que nos études nous démontrent qu'on s'approche de plus en plus du point de non-retour où on va avoir poussé le réchauffement planétaire à un point où on n'aura plus besoin de nous pour se réchauffer, ça va se faire tout seul. » C'est ce qu'on appelle le « feedback point », où ça va automatiquement se réchauffer sans notre travail. Fait que là, c'est des alertes qui sont mises, mais les gens ne les écoutent pas ou le gouvernement ne les écoute pas. Surtout qu'on a des gens comme M. Ebel qui prend des positions...
Oui, qui sont plus faciles à accepter pour beaucoup de monde parce que ça se fait dire que tu n'as pas besoin de changer tes façons de faire. Voilà. Tu n'as pas besoin de réduire tes émissions. On s'en fout, ça n'a pas rapport. C'est facile de faire, mais je vais continuer comme d'habitude. Tu vois bien, de toute façon, il dit que ça n'a pas rapport.
Mais j'aimais bien aussi, c'est un comique qui traînait, là, mais c'était justement à propos de quelqu'un qui fait une conférence pour comment améliorer la situation. Puis là, il y en a un dans la foule, évidemment, qui dit « Ouais, mais là, si c'est pas vrai, on va avoir amélioré le monde pour rien. »
mais ça représente exactement le débat parce que l'être humain, il est fondamentalement mal équipé pour gérer une crise comme ça. Parce qu'on est, de notre évolution, d'où de tout le bagage qu'on a, si on part des chasseurs-trappeurs qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui, ça monte loin ce terme-là, chasseurs-trappeurs. Je pense que ça doit faire au moins 20 ans que j'ai pas utilisé ce mot-là. Genre dans un examen d'histoire.
j'en parlais justement un matin.
On parlait des grappilleurs.
Les grappilleurs.
Un matin?
Ouais. Mais toi, c'est possible. Ça reste...
Tu restes à Saint-Félix. non, mais...
Je vais t'enseigner dans un...
Ouais, mais genre okay. Dans
non, mais si on remonte à tous ces comportements-là qu'on a appris dans notre évolution, on est super bon à définir qu'est-ce qui est une menace directe à notre propre personne ou à notre famille, aux gens qui nous entourent. Ce qui a fait de nous aujourd'hui des gens extrêmement adaptés à faire le suivi de envers qui j'ai des dettes, envers qui j'ai des faveurs. on est des gens qui payent des comptes, finalement. Notre menace, c'est nos comptes. C'est ça. On est bon dans ça, ces petites choses-là qui ont une narrative personnelle, qui sont à notre niveau, qu'on a un impact facile. Si je ne paye pas mon compte, j'ai plus d'Internet. Je paye mon compte. C'est facile. La cause à effet ici est facile à comprendre. Mm-hmm. Puis on a une incidence directe, puis tangible sur ça. Donc, dans ce contexte-là, la narrative est facile. Quand on transpose cette narrative-là au débat sur les changements climatiques, cette narrative-là ne fonctionne plus. Parce que tout d'un coup, toute notre société qui est basée sur qui va faire plus d'argent, on dépend des autres, sur la compétition, le capitalisme et tout ça. Puis on dit à tous ces gens-là, « Hey, vos profits, il faudrait tous les mettre ensemble. » Puis comme, calmez-vous, là. On va faire un effort tout ensemble, puis on va...
Serre ton gun. Serre ton gun.
Puis on va investir, genre, juste pour que ça soit... Ça sente mieux quand on respire dehors. T'sais, vous ne ferez pas d'argent avec ça, mais vous allez faire moins d'argent plus longtemps.
Remets ta pin, ta grenade. Remets ta pin.
Lâche ta boîte.
Donc, évidemment, comme on parle...
Karen, lâche ta Switch. Je parle, là. Je parle.
Pas drôle, c'est dans les manuels, la Switch est comme... Environment friendly, yeah. Des matériaux recyclés. Est-ce que Karen, tu peux continuer? Tu peux l'emmener à ton party.
Tu vas être encore plus cool parce que c'est vert.
Mais dès que l'ennemi devient quelqu'un d'intangible, quand l'ennemi c'est pas ton voisin, c'est pas le collecteur d'impôts, quand l'ennemi c'est pas le gouvernement ou celui du pays d'à côté qui veut t'envahir, tout d'un coup les solutions deviennent beaucoup plus difficiles à accepter. Puis c'est encore pire quand. Mais on a tout un rôle à jouer dans ça. Puis on est tous un peu responsables de la situation dans laquelle on s'est mis. On a un impact sur ça. Mais quand on se fait offrir des solutions, quand on se fait proposer des solutions, parce que tout le monde en a entendu, on a vu à la télé, on lit les journaux, on voit des revues. Il n'y a personne qui est sourd ou aveugle à ces discours-là, à ces solutions-là. Mais il y a très peu de gens qui les appliquent parce que l'action individuelle ne nous donne pas l'impression d'avoir un retour sur cet investissement. C'est minime, c'est bénin comme action. On a la possibilité d'avoir l'effet que si tout le monde se met ensemble, ben, cette petite action-là va devenir majeure. Donc, évidemment, c'est un sujet qui est facile à ignorer. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui sont là, qui peuvent peut-être nous aider ou nous donner un coup de main à ça? Est-ce qu'il y a un effort qui est fait dans ce médium-là qu'on parle beaucoup pour aider les changements climatiques ou le promouvoir? Ou
attends, on a déjà parlé de la vidéo Way, puis du petit jeu des touffe-touffe et pollueurs.
Tout est pollueur.
C'est un début. Hein?
On commence à quelque part.
Quand même longtemps, par exemple. On a déjà été préparé dans notre jeunesse.
Bah, écoute, moi, je suis un rétro gaming. Moi, au lieu d'acheter des nouveaux jeux, je joue à mes vieux. Ben,
c'est bon, ça, c'est un bel effort.
C'est de la complète merde. Ça t'a tiré tellement de wattage, ces maudites consoles-là, ça n'a aucun rapport.
Un vieux Game Boy, ça tire plus de jus qu'une télé 4K.
Tu le plugues dans le mur, les lumières baissent.
Mais je me suis questionné, j'ai fait des petites recherches là, sur Internet.
C'est pas un réacteur nucléaire dans un Game Gear, je pense, que ça dure 4 minutes. Genre.
Tu mets 4 réacteurs nucléaires.
Faut t'attaquer des Iraniens comme dans Back to the Future pour avoir des rods de plutonium.
Mettre 3 rods 2A dans le réacteur de ton Game Gear.
Hey, c'était 6 batteries, je pense.
Ouais, pour avoir 6 minutes. Ouais,
c'est
genre,
ça. Anyway.
Parce que bon, oui. Donc, j'ai fait des recherches puis j'ai découvert qu'il y a quand même un développeur extrêmement connu qui s'appelle Rovio, qui est derrière tous les jeux de Angry Birds.
Les jeux
d'Angry Birds. a quand même fait des initiatives. L'année passée, au mois de septembre, ils ont organisé un tournoi. Un tournoi qui s'appelait Champions for Earth, qui incitait des joueurs à jouer à Angry Birds Friends. C'est une version du jeu. Puis les jeux ont eu une thématique autour de l'environnement, tout ça. En avez-vous entendu parler?
Nope.
Ça nous prend vraiment un bruit de criquet sur le soundboard. Hein?
C'est un peu le point que je vais amener avec ce tournoi-là. C'est que pour un jeu qui était aussi populaire, une compagnie qui a fait autant d'argent, ils ont quand même... Ça file un petit peu comme un effort, comme « Ouais, oui, on a fait notre partie, on a fait notre part, puis maintenant, laissez-nous tranquille. » Mais est-ce qu'il y a vraiment des jeux qui parlent de changement climatique? Oui. J'en ai trouvé un intéressant. Qui s'appelle, il y en a plusieurs, mais j'en ai trouvé un qui m'a intéressé, qui s'appelle Future Delta 2. Et selon le site web, qui finit en .ca, ça semblerait être une initiative canadienne. Pour faire changement. Hein? On est toujours à l'avance des autres sur ces sujets-là.
Donc, ouais, parce qu'on est proche du pôle. Hein.
Ça, on le voit, non, on le voit fondre.
On le voit fondre, nous autres.
C'est nous autres qui a de l'eau dans nos sous-sols. Pourquoi est-ce que nos sondes pompes fonctionnent pour compenser pour les autres? pas la mienne, moi, j'ai pas de maison. Hein, mais...
Voyons, t'es tombé à mer.
donc, Future Delta 2, qui est un jeu qui visait à mettre les joueurs... C'est du edutainment, c'est clairement un jeu éducatif, mais qui essaie de rendre ça personnel, où dans le jeu, on a comme une petite cour arrière d'une maison, puis il faut essayer de l'entretenir pour éviter des choses comme la fonte des glaciers ou le réchauffement de la planète, tout ça, les pluies acides et compagnie. Mais avec des initiatives de la taille d'une petite maison ou dans notre cour arrière, finalement. Fait que l'idée était ici de ramener l'idée où... Chacun peut faire sa part à la maison. C'était d'amener les joueurs à expérimenter et à trouver des façons. Puis il y a des mécaniques qui avaient un impact, par exemple. Si tu faisais du compostage, bien, tout d'un coup, tu avais des indicateurs qui allaient changer puis t'expliquer comment tu participais à sauver l'environnement. Hmm. Un petit jeu intéressant, edutainment. Donc, comme toute l'edutainment, ça passe quand même c'est assez sous silence. On voit pas ça tous les jours sur le PlayStation Network.
C'est ça, c'est pas des gros...
Piu, 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 piu.
Il y a quand même des jeux de rôle. J'ai trouvé qu'il y avait un jeu, on a parlé de Donjon Dragon tantôt, qui a été intronisé au temple de la renommée des jeux.
À côté de la balançoire.
Mais il y a un jeu de rôle qui s'appelle World Climate, qui est un jeu de rôle qui sert à simuler les négociations de changement climatique des Nations Unies. En fait, en divisant les joueurs à travers soit au niveau régional ou national, puis de créer des négociations. Donc, on parle de jeu de rôle, je pense que ce soit un jeu comme Donjon Dragon qui est une feuille de personnage. C'est peut-être comme quelque chose qu'ils font à l'université.
Tu dis ça, puis je l'ai fait à l'université dans un cours d'écologie.
Ouais, les Model UN?
Mais en fait, moi, c'était pas à ce niveau-là. C'était un cours d'écologie. On avait fait un peu la gestion d'un territoire. Fait que d'un côté, il y avait une corporation. De l'autre côté, il y avait une gang d'écologistes. Puis on avait poussé un peu le concept là, parce qu'on était de même dans notre cohorte. La gang de corpo, c'était arrivé en three-piece suit, là, en soude. Puis nous autres, on était arrivé crush avec des bas de laine dans des...
comme t'arrives à chaque enregistrement de podcast, finalement.
Bref, c'était très drôle. Puis on a réussi à faire une entente. Puis il y avait Jean-René qui avait amené comme une bouteille de mousseux. Fait qu'on a ouvert le mousseux pour célébrer l'entente. Mais tu sais, l'idée du jeu de rôle en arrière de ça est un peu là, mais nous autres, c'est encore d'un cours d'écologie. Fait que c'est un peu à plus petite échelle, mais je vois le genre. Ouais.
Mais c'est quand même des efforts qui sont intéressants. Reste que j'ai l'impression que dans le gaming, ce serait peut-être intéressant un jour d'avoir des jeux qui adressent ce sujet-là différemment que Mad Max où tout est déjà trop tard. on est beaucoup présenté avec les jeux, avec le cinéma, les téléséries, avec cette image-là de ben, well, truck it, il est trop tard. Puis on a beaucoup l'univers post-apocalyptique, puis souvent causé par les pluies acides, par le réchauffement de la planète, par, bon, on peut nommer toute la liste. Là.
Mais ces univers-là sont strictement des power fantasy. Là. C'est juste de, ça serait cool un monde où on revient en arrière parce qu'on a tout scrappé. Il n'y a aucune réflexion sur pourquoi on est là, puis c'est ça. C'est pas un commentaire sur l'environnement, c'est un fantasme.
C'est comment je pourrais faire pour jouer de la bass en feu sur devant un truck, là?
Ben, c'est sûr que si tu présentes ça comme ça, c'est une réponse à laquelle j'aimerais avoir une question.
mais si on vient joindre à ça, la réflexion que ben, t'auras plus ton téléphone, t'auras plus Instagram, t'auras plus Facebook, t'auras plus Twitter, t'auras plus...
Ouais, mais je vais jouer de la bass en feu sur devant un truck.
Donc, reste que c'est un sujet qui pourrait peut-être être mieux adressé, puis peut-être mieux adressé par les AAA ou des jeux comme ça qui ont une visibilité. Pour faire passer peut-être un message.
Mais je pense que c'est un espace où est-ce que il y a tellement de choses le fun qui ont été faites dans les jeux pour les exercices, où est-ce qu'on a profité justement des plateformes mobiles qui ludifient le quotidien, donc qui donnent des qualités de jeu à des expériences que tu devrais faire de toute façon. Fait que tu pourrais bonifier comme ça des tâches du quotidien.
Mais c'est ça.
Gamification. Exact. Mais c'est la même idée-là où est-ce qu'on l'a fait avec l'exercice, avec un bon degré de succès. Il y a beaucoup de monde qui ont pu être plus assidus dans leur exercice. Il y en a qui l'ont fait dans leur tâche quotidienne avec des jeux comme les To-Do Quest puis tous ces genres de jeux-là qui tentent de faire un jeu de tout pour motiver le monde. Ben, tu sais, si ça pouvait être greffé à des systèmes de récompenses, de points, soudainement, les gens y trouvent un intérêt.
Ouais. T'sais, la même chose pourrait être apportée aux choses banales. T'sais, le compostage, le recyclage que souvent nos villes ou nos arrondissements nous demandent de faire à chaque semaine, s'il y aurait une récompense ou un retour plus que ma bonne conscience, peut-être que les gens qui ont moins de bonne conscience, il y en a de ça, ben peut-être qu'ils participeraient plus à cet effort-là. Fait que, finalement, ce qu'on a besoin, c'est un intérêt commun pour unir nos efforts, protéger l'environnement. Peut-être qu'on devrait se nommer un ou une porte-parole derrière qui nous rallier Donc, suite aux suggestions de M. Rochette et M. Forget, comme on a entendu tantôt, ben, je lance la campagne Karen 2020 pour remplacer M. Trump à la fin de son prochain mandat.
Je vote pour Karen.
Après mon segment de taille Shadowrunesque du dernier épisode, ben, je me demandais de quelle façon je pourrais bien, en fait, de quoi je pourrais bien parler pour essayer de rester dans le thème.
Alors, pour nous envoyer du feedback, c'est au Divan Quest.
Matt m'a proposé de faire un top 10 des meilleurs items de Shadowrun.
J'ai fait ça, moi.
Oui. Puis, j'avoue que rien ne me ferait plus plaisir là, que de vous vanter les mérites d'un bon vieux armor jacket ou de la fiabilité d'un ARS Predator, là, puis de ses multiples itérations. Je me dis que ça serait peut-être pas si intéressant. Quoi qu'en même temps. Mais non, j'ai plutôt décidé de retourner à des jeux qui étaient sur ma liste de jeux à jouer. Puis, en fait, je suis tombé sur un jeu qui aurait pu fitter dans le thème de la revisite de l'épisode précédent. On en avait parlé.
Quand il est tombé gratuit.
Oui, ben, l'année passée, en fait, ça fait pratiquement un an, il était offert gratuitement là, par le Epic Game Studio, là, le co-développeur avec Chair Entertainment. Puis je parle, dans le fond, de Shadow Complex Remastered, la version remasterisée de Shadow Complex. On va mettre les choses au clair, là, je dirais pas remastered tout le temps. Les différences sont minces quand même entre la version originale qui était au Xbox 360 puis la version remasterisée là, qui est sur OS X, sur Windows, PS4, Xbox One. Puis frigidaire LG. Non. Dans le fond, ce qu'on parle, c'est mise à jour graphique quand même. Là, à ce niveau-là, il y avait quand même une petite coche là, pour aller chercher des graphiques avec le nouveau engin de Unreal. Contrôle souris clavier qui n'était pas là avant. Ils ont rajouté aussi des achievements qui n'étaient pas là avant. Des challenges qu'on peut faire là, en dehors de la mission principale. Puis l'ajout d'un takedown, je ne trouvais pas le mot en français, là, en mêlée. Donc d'un genre de kill automatique. Là. Bref, si tu arrives proche d'un ennemi en mêlée, tu peux le tuer d'un coup, puis c'est assez utile et intéressant. Je l'utilise vraiment très souvent. Là. Puis dépendant de comment tu arrives, l'attaque est différente. Là. Si tu arrives en courant, tu fais un jump kick, puis bref, c'est quand même cool.
Ouais, surtout qu'éventuellement, tu te déplaces assez vite. Là.
Ouais.
Oui, quand même un peu. Mais quand tu te déplaces à cette vitesse-là, t'as pas besoin de peser ce piton pour faire...
Tu fais juste rentrer dedans quand tu cours.
Mais en tout cas, c'est quoi ça, ce jeu-là? On en parle déjà, mais on sait même pas c'est quoi. Ouais. On pourrait parler d'un jeu d'aventure plateforme, si on veut, où on va suivre les aventures de Jason Flemings, qui s'en va faire du hiking avec sa nouvelle blonde Claire.
Le protagoniste en carton de l'année.
Vraiment. Bref, j'y pense là, pendant que je pense que c'est la bonne définition. Ils vont découvrir ensemble une caverne, là, puis ils vont décider d'aller explorer la caverne, puis ils vont tomber par hasard sur un complexe souterrain gigantesque et extrêmement avancé au niveau technologique. Claire va se faire trouver par les gardes, Jason va vouloir la sauver.
Hey,
c'est ça.
Puis c'est élaboré.
Nous autres, on va suivre Jason qui veut retrouver Claire pour après ça retrouver son chemin pour sortir du complexe.
Ce qui fait un jeu beaucoup plus intéressant que si on suivait Claire.
Ouais, parce que... C'est ça. Il est en carton. Puis on va finalement le suivre là, alors qu'il décide de sauver le monde. En tout cas, au moins San Francisco, là, hashtag Galaxit 2019.
Ça se passe en 2019?
Je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'informations. Ça se pourrait. Là, je veux dire, c'est comme un futur relativement proche si on se fie à la technologie. Fait que l'histoire est quand même classique. Là. Mais on se demande quand même en jouant ce qui va se passer puis ce qui va nous amener à avoir le goût de suivre l'histoire, parce que les rebondissements sont quand même assez fréquents, même si c'est pas à tout casser, c'est assez pour rester engagé dans le jeu. On sait tous que le dude va sauver le monde à la fin du jeu, mais comment il va se rendre là, ben c'est là c'est ce qu'on se demande, puis ça va être quand même amusant à suivre. Ça peut peut-être s'expliquer, ce bout-là, par le fait que le script a été écrit à l'origine par Peter David, qui a écrit des comic books, puis des romans de Star Trek aussi. Fait que le dude, en gros, il connaît sa méthode littéraire, puis il connaît sa sci-fi, t'sais. Fait qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait. Donc le script a quand même été écrit par lui. Bref, si on parle du jeu en termes de gameplay, on va parler d'un Metroidvania, là, pour les habitués, un jeu qui est inspiré de Metroid de Castlevania, dans le cas de Shadow Complex, mauditement inspiré de Metroid, de Super Metroid en particulier. Donc on se promène en deux dimensions pour explorer les différentes pièces qui vont composer notre complexe souterrain. On se promène de gauche à droite dans l'écran, puis de haut en bas, un peu partout. Par contre, on ne peut pas vraiment parler d'un jeu en 2D, parce que même si notre personnage se déplace juste sur un plan, ben les ennemis, eux autres, peuvent être plus loin dans l'autre axe, donc en profondeur dans l'écran. Puis ça donne un petit côté moderne, si on veut, à un jeu en deux dimensions avec ce côté de profondeur. De mon côté, c'est la première fois que je voyais ce genre de gameplay-là, puis je trouvais que ça marchait très bien. Là. Je n'ai pas vu dans d'autres trucs, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais remarqué ce genre de gameplay-là.
Oh, c'est jamais un obstacle, puis c'est pas si fréquent que ça devient...
Non.
C'est sûr que ça devient genre blasant. Ou...
Non, non, c'est ça. Quand les ennemis sont un peu plus loin dans l'écran, ben il y a une espèce de visée automatique qui va t'aider à viser dans le bon plan. Puis après ça, ben t'as quand même les contrôles qui permettent de viser sur les ennemis. Ça se fait quand même assez bien. Puis, tu sais, de temps en temps, ça amène un petit côté. Là, ah, il y a un corridor. Oh, shit, il y a une alarme. Oh, ils s'en viennent. Fait que là, ben tu t'étires dans le corridor quand ils s'en viennent. Puis ça amène un petit côté le fun que même si tu te déplaces tout le temps en deux dimensions, ben tu sais, tu comprends qu'il y a une profondeur. Là, c'est le fun. Tu sais, pour vrai, c'était intéressant. Sinon, tu casses le jeu, t'as une lampe de poche. Ça te permet d'éclairer des places sombres parce que c'est une lampe de poche. Et ça permet aussi d'identifier là, des portes, des passages qui sont cachés, qui seraient accessibles seulement avec d'autres items qu'on va trouver plus tard. T'sais. Mais c'est la lampe de poche qui va nous dire ah, ça va me prendre tel item pour passer là. Mais c'est quand même le fun aussi, ça nous permet de l'utiliser. Un peu comme dans quand on avait joué
Affordable Space ouais. Adventures. Ouais.
Où Jeff avec sa lampe de poche pouvait éclairer des choses.
C'était le rôle le plus important.
Oui.
De klaxonneur.
Et animateur de gyrophare. J'ai de bons souvenirs.
Ben, en cours de route, ben, on va découvrir différentes armes. Là. Ça passe du pistolet au méga shotgun qui propulse des balles par accélération électromagnétique là, en passant par un paquet d'armes automatiques.
Mais l'important, c'est quand les ennemis meurent, ils tombent en ragdoll et ah, c'est solide. Très drôle.
Plus ton arme est forte, plus ils revolent. Mais en fait, c'est le fun. T'sais, chaque arme est une mise à niveau de l'ancienne qui dans le fond, on ne peut pas vraiment choisir ce qu'on veut utiliser, mais à chaque fois qu'on en trouve une autre, c'est de plus en plus fort. En fait, on a des balles à l'infini, mais avec des grosseurs de chargeur. Plus on prend une arme plus forte, les grosseurs de chargeur augmentent. Jusqu'au dernier shotgun, là, où ça diminue, mais tout te revole en une balle. Là, c'est assez violent. Fait qu'en plus de nos...
Piu, 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 piu.
Mais on trouve d'autres trucs, d'autres armes, comme des grenades, des missiles, de la mousse à expansion automatique. Mm-hmm. Tu sais, genre qu'on met dans les fenêtres, là. mais mauve. Donc, à part notre mousse à expansion automatique, il y a un réducteur de friction qui permet de courir vite.
Ce qu'on appelle du lube.
Oui. Qui permet de courir vite. Puis un crochet, là, comme un hookshot un peu à la Zelda. Fait qu'en plus de plus de boom, plus de vitesse, ben avec le hookshot, on a plusieurs façons de se déplacer rendu à la fin du jeu. Donc, c'est les items qui vont nous amener à un peu résoudre les... pas tant les puzzles, mais à se déplacer puis à avoir accès à certaines zones fermées avant. On va aussi découvrir différentes pièces qui vont composer l'armure que le personnage se monte à mesure qu'il rentre dans le complexe. Là. On commence au début en trouvant un petit bout de jetpack, puis après ça, ben, on se ramasse avec une armure de plus en plus complète, qui, en plus de donner de la protection, va nous permettre de faire des doubles sauts, triples sauts, de respirer en dessous de l'eau, puis éventuellement devenir pratiquement invincible si on se déplace lentement ou on reste sur place quand on a tout trouvé là, avec le casque. Donc, c'est la pure tradition de Metroid. Là. On peut explorer le complexe, mais il y a des zones qui sont pas accessibles parce qu'on n'a pas les items qu'il faut. Plus tard, on peut y revenir. Heureusement, contrairement à d'autres Metroid, on peut y revenir.
Ouais. On se fait jamais barrer.
On se fait jamais barrer. Les seules places qu'on se barrait, c'est pas grave qu'on se les fasse barrer, là. C'est normal. Donc, voilà. Mais contrairement à Metroid, on a une explication un peu plus, mettons des guillemets, logique au fait qu'on ne puisse pas se rendre à tel ou tel endroit parce qu'on a besoin de tel ou tel item. Bon, en même temps, c'est un peu cave que telle place, ça me prend des grenades. Ouais. Mais si je pêche un missile, ça ne brise pas, là. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais bon, tu sais, tu as des trucs de ventilation, parce qu'il y a des ventilateurs que pour passer, il faut que tu droppes ta mousse à expansion pour que ça pète le ventilateur, que tu puisses passer. Il y a des trucs comme ça qui fonctionnent.
Ça, c'est bien justifié.
Ben, c'est ça. Il y a une petite justification. Il faut que tu aies ton truc qui réduit la friction, qui te permet de courir très, très vite, style de flash un peu, pour briser des caisses en courant à une vitesse folle.
T'sais, on s'entend. Très Super Metroid, là.
C'est des mécaniques de jeu, mais en même temps, ça fait que je peux pas aller là parce qu'il y a quelque chose qui me bloque, puis c'est pas juste... Donc, tu sais, c'est pas nécessaire, mais c'est le fun. En plus, ben on trouve aussi des mises à niveau là, qui vont augmenter le nombre de grenades, de missiles, le nombre de mousses qu'on peut porter, notre vie, notre armure, encore là, très, 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 très Metroid. Puis, il y a aussi des passes qu'on peut ramasser, qu'il y en a 12 de cachés un peu partout dans le jeu, des genres de il appelle ça des passkeys, là, des genres de passes informatiques, électroniques, puis qui te permettent d'ouvrir, chaque passe que tu trouves va ouvrir un champ de force dans un corridor à la fin, dans le fin fond du complexe bien creux, que tu découvres là, pas à la fin du jeu, mais que tu comprends que tu peux pas y aller avant la fin, qui va te débloquer le dernier cast, Le dernier cast, oui. Mm-hmm. Dernier casque qui va faire que tu deviens pratiquement invincible. Là, c'est ça. Il y a aussi 10 lingots d'or qui sont cachés un peu partout dans les pièces. Puis qui va, quand tu les auras trouvés, débarrer une salle secrète. J'avoue, moi, vous spoiler quelque chose. En même temps, c'est tellement décevant. Qui va nous donner accès à toutes les armes qu'on avait avant, puis à notre armure. Mais en doré.
Pour les complétionnistes seulement.
Moi, j'étais un peu déçu parce que je suis comme, c'est bien lettre. Je peux-tu l'enlever? Puis là, j'ai comme, je regardais vite, ça a pas l'air d'être pouvoir être enlevé. Non, mais tant pis. Fait que j'ai fini le jeu en doré.
T'as fini ta game en bling.
Bling, bling, mais hein. Chicka-ching-ching.
C'est pour ceux qui se payent le skin AK-47 en or là, à Counter-Strike. Là.
Ouais, ouais, moi j'avais.
Tu pourrais tirer les games.
C'est ça. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que les mises à niveau sont pas nécessairement obligatoires pour avancer. Mais on va quand même les retrouver affichés sur la carte. Si on passe dans une pièce où il y a une mise à niveau, il va y avoir un point d'interrogation qui apparaît sur la carte. Tu sais qu'il y a quelque chose dans ta pièce. Fait qu'il faut juste que tu l'explores ou tu te comprends. Ah, ben je la vois, la mise à niveau. Ah, il y a une trappe rouge, ça me prend mes missiles. Quand je les aurai trouvés, je vais pouvoir revenir. Puis sur la carte, il va apparaître un petit truc rouge qui te permet de voir qu'il y a une porte rouge que tu as trouvée, mais que tu n'as pas débarré parce que tu n'avais pas l'item. Fait que ça te permet de comprendre où tu vas revenir après. Puis ça, c'est quand même intéressant aussi pour ceux qui voudraient être un peu complétionnistes. Puis moi, quand on me les met sur ma map, je le deviens. En général, je ne suis pas, mais dans ce cas-là, je le deviens.
Ben, il y a un autre côté à ça, par contre. Parce que le jeu copie tellement la formule de Super Metroid, qui est un jeu qui compte sur toi pour explorer.
Oh, oui.
Tandis que ce jeu-là te mène d'un point à l'autre sur la carte. Si j'ai comme quelque chose à reprocher un peu à ce jeu-là, c'est que la carte te dit tout le temps où est-ce que tu dois aller. Puis t'es jamais laissé à toi-même explorer.
En dehors des oui, non, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'en dehors de ces points d'interrogation-là, c'est vrai que t'as tout le temps une ligne bleue qui t'amène à l'endroit que tu veux aller, puis qui te pointe où est-ce qu'il faut que t'ailles. Puis, ouais.
Le jeu serait au moins une fois et demie plus long sans le GPS built-in.
Mais tu vois, pour moi qui n'est pas un fan inconditionnel de Metroid, c'est ce qui a fait dans ça. C'est probablement pourquoi j'ai fini le jeu, en fait.
Mais c'est un jeu qui devient un jeu d'action-aventure plutôt qu'un jeu d'exploration à cause de ça.
Mais tu peux le mettre à off.
Ouais, mais c'est. Mais non, je sais. C'est pas un argument.
Ça. Je sais. Mais je l'argumente pas.
Mais non, mais ça, mais c'est. Tu sais, puis j'adorais le jeu, puis je l'ai fait avec le maudit GPS, t'sais. Mais je suis comme moi, hein, j'aurais peut-être pris plus le temps de. Au lieu de suivre. Quand tu suis une ligne dans un jeu, tu regardes pas ce qu'il y a alentour parce que tu suis la ligne. Tandis que c'est un format qui encourage l'exploration.
Mais vois-tu, moi, on dirait que même s'il y avait la ligne, je me demandais tout le temps, bon, la ligne m'amène là, où est-ce que je peux aller entre-temps, puis. Fait que je le faisais, tu sais. Mais je peux comprendre que tu le fais pas aussi.
Ben, c'est ça.
Si le jeu est intéressant entre où t'es et où tu veux aller, quelque chose à faire peut-être. Mais, t'sais, on parle de la ligne, on fait référence à GTA. Là,
et tout ça.
Qui a une ville incroyable mais qui n'a rien à faire dans cette ville-là à part aller à ta destination. Ah, ouais, évidemment, tu vas suivre la ligne.
C'est n'importe quoi. Ouais. Tu peux être un singe qui tire des chars avec un shotgun dans GTA.
Ouais, mais pour suivre la narrative du jeu.
Ah, ok.
Bon, mais même quand il y a des choses intéressantes, c'est que il y a une myopie qui se développe où est-ce que tu regardes la ligne, pas l'environnement.
Je suis quand même assez d'accord. Ouais, mais moi, pour les points d'interrogation, ça, par exemple, je suis assez positif là-dessus parce que sinon, je n'aurais pas cherché ou je me serais pris une liste sur Internet. Oh, pis,
ben, moi, je dirais que tu le donnes plus tard. Tu donnes un power-up plus tard qui fait apparaître les points sur la carte. Quand tu arrives à proximité, cas, ça fait le radar. Okay. Là, ben, c'est ça. C'est même que je le vois.
Ça, c'est une bonne idée quand même.
Mais un jeu comme Ori and the Blind Forest faisait ça. C'est une habilité que tu débarques qui fait apparaître les power-ups.
Ouais, ça, j'avoue. Ça, j'aime ça.
Voilà.
Bref, j'allais dire un truc à faire attention, par exemple, c'est que j'ai cherché fucking longtemps pour un des derniers power-ups que je trouvais pas, même si j'avais comme passé partout sur la map, parce que dans une pièce, il y en avait deux. Quand tu pognes le premier, puis c'est ton masque comme qui est essentiel pour aller dans l'eau, l'autre power-up, il apparaît plus comme un point d'interrogation sur la map.
Ouais, ça c'est un bug.
C'est que ça, tu le sais pas, là. Ouais, là, ben, tu finis par faire « fuck, mais aller voir sur Internet, il manque un esti de power-up, puis dans le fond, il est dans la même pièce, faut juste que... Spoiler encore, là, tu sautes dans l'eau à côté, puis vu que tu as ton masque, maintenant tu peux aller comme dans le fond, puis tu as un power-up qui est là. Mais tu sais, j'avoue que c'est comme, ok, il y en a deux dans la même pièce, mais tu me le dis pas, puis je me fie un peu. Je me fiais sur toi, là, je te faisais confiance.
Mais tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas bonne la ligne.
Bref, pas mal de piou-piou, pas mal d'exploration, dépendant de comment on veut jouer. Je suis d'accord avec toi qu'il y en a moins si tu décides de suivre la ligne, mais si tu t'amuses à te promener, il y en a beaucoup à faire. Puis justement, pour piou-piouter, ben, on utilise notre joystick sur notre manette pour viser. Joystick de droite, rien de bien spécial, là, c'est assez classique. Mais en même temps, quand les ennemis sont devant ou derrière, comme je disais, en profondeur, ben, le laser va t'aider à. Il y a un petit laser quand tu vises qui va t'aider à les viser. Fait que ça quand même te demande de viser sur les ennemis, même s'ils ont un effet de profondeur. Puis bon, comme n'importe quel jeu, là, si tu vises les têtes, ben, ils meurent plus vite. Puis t'as des achievements pour les avoir chassés dans la tête. T'as des achievements aussi pour quand ils tombent, quand tu les tires. Puis c'est genre make and scream ou quelque chose de même. T'sais. Puis bon, y a des petits robots, des gens de petits drones là, qui se promènent, qui ont un achievement pour les kicker.
Ouais.
Quand tu les tues en les kickant.
Il y avait un achievement quand j'ai joué au 360.
Oui, il me semble qu'il y avait des achievements.
Il y en avait.
Ils ont peut-être rajouté.
Ils en ont peut-être mis plus, mais il y en avait un, il fallait que tu cours sans t'arrêter à travers toute la map. Tu peux, t'es pas tout le temps dans un complexe, tu peux sortir à l'extérieur, puis être comme sur le dessus de la montagne. Il fallait que tu partes complètement de la gauche jusqu'au barrage.
Mais il faut que tu traverses le chalet en sautant par-dessus. C'est ça. Ouais.
Sans jamais interrompre ton momentum.
Ouais.
Jamais réussi. Jamais.
Mais c'est quand même un moment assez badass quand tu penses que les bas de courir vite, puis que pour traverser le lac. Ça te prend ça parce que tu fais juste sprinter.
Tu sprintes par-dessus l'eau. Hein,
tu Jesus sprint par-dessus l'eau.
Il y a un achievement juste de courir sur l'eau là, dans la version remastered. Tu vois, t'as couru sur l'eau. En dehors des quelques gardes différents qu'on retrouve, il y a quand même des boss aussi qui sont généralement des genres de tanks là, ou des affaires comme ça. Encore là, la tradition, le pur Metroid. Qui demande généralement de tirer à un endroit ou de faire une action pour les tuer, pour pouvoir les endommager. Mais ce qui vient, c'est qu'on te donne quand même l'indice quand t'arrives. Tu passes pas 22 vies à essayer de comprendre de quelle façon tu vas réussir à le détruire. J'avoue qu'à un moment donné, ça peut devenir gossant. Là, il te donne un indice. Il dit pas exactement quoi faire. Il me dit « Ah, lui, il a l'air d'avoir une place découverte en arrière. Essaie de faire quelque chose. » Ou « Il y a comme du filage à telle place. Faudrait peut-être essayer de l'arracher. » Il y a quand même un bout. Bon, il y a aussi l'affaire que tu as tellement trouvé d'updates de missiles que tu peux juste te mettre à une place un peu safe puis genre tirer des missiles à répétition dessus. Là. Ça fonctionne généralement assez bien aussi. parlant de manquer les boss puis de mourir, ben ça arrive, c'est pas la fin du monde. Ça nous ramène à un dernier checkpoint. Fait que la sauvegarde est automatique quand on rentre dans les salles qui a un checkpoint. Là, c'est une petite étoile sur la carte. Ça reste très, très rapide. Sauf que bon, des fois, tu y penses pas. Tu passes à côté d'une salle, tu fais comme je suis correct, j'ai toute ma vie, toutes mes choses. Puis là, t'arrives à une place, tu meurs, tu fais « Oh shit, je suis vraiment loin. » Fait que petit conseil, là, prenez le temps de rentrer dans la salle quand vous en voyez un. Il n'y a pas de temps de loading. C'est pas comme s'il faut que tu cliques quelque chose puis ça prend du temps.
Il n'y a même pas l'animation comme les saves dans Metroid. Là.
Zéro.
C'est juste tu rentres dans la pièce.
Tu rentres dans la pièce, tu ressors, c'est fait. Fait que ça vaut la peine de le faire parce que des fois, c'est « Ah, fuck, j'étais loin. » niveau difficulté, j'ai joué normal. Puis au début, c'est une bonne difficulté. C'est pas trop facile, pas trop difficile. Faut que tu fasses attention. T'as pas trop de balles, t'as pas trop de vie. Mais à mesure que tu pognes les mises à niveau, là, le niveau de difficulté, il pogne une solide plonge. Là, ça devient un peu n'importe quoi. T'as plus peur de manquer de grenades puis de missiles. Fait que, il y a un gars, il va tirer une grenade. T'as plus peur de rien. Ton armure enlève tellement de dégâts que tu peux faire comme moi. Je vais marcher dans le milieu de la pièce et ils vont me tirer. Ça me donnera presque pas de dégâts.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une belle progression. Quand tu commences puis t'as juste une flashlight jusqu'au moment où t'es vraiment badass.
Ben,
c'est satisfaisant d'être badass.
Mais je trouve qu'il y a comme une demi-progression. Il arrive un bout où est-ce que c'est comme trop?
Ben, je vais faire l'avocat du diable. Là. Ça a l'air que je relève les points négatifs d'un jeu que j'adore. Là.
Mais
c'est le syndrome Skyrim. C'est le syndrome du RPG où est-ce que on nourrit ton fantasme. Ton personnage devient fort. Donc, t'as pas besoin de devenir meilleur parce que ton bonhomme est juste vraiment fort. Fait que toi, ta difficulté diminue parce que t'es plus... ton personnage est plus fort.
Mais moi, j'ai nourrissé mes fantasmes.
Mais toi, j'étais un petit peu là-dessus avec toi. Je trouve qu'au début, la progression est là. T'sais, c'est vrai que tu deviens un peu plus fort, les ennemis sont un peu plus forts. Puis ça, même à un moment donné, c'est que toi, ton niveau de pouvoir devient tellement important.
Puis les armes te donnent tellement des patterns de tir avantageux que le jeu a comme l'avantage et l'inconvénient de te permettre de tirer librement avec le joystick de droite, comme tu disais tantôt. Ouais. Sauf que ça fait que Metroid repose beaucoup sur le fait que tu tires à 8 directions. Fait qu'il te demande de te placer au bon endroit pour pouvoir tuer un ennemi. T'élimines tout ça en faisant que tu tires partout. Puis vu que c'est des armes modernes aussi, il n'y a pas de balles qui voyagent. Ça tire comme un shooter, donc tu as juste l'impact du tir. Fait que tu peux pas te placer puis éviter les balles d'un ennemi, etc. Fait qu'ils n'ont comme pas le choix de faire une progression un peu artificielle comme ça parce que tu es limité à quel point tu peux éviter une attaque. Tu dois juste te cacher. Puis quand tu tires, ben après ça, quand tes guns sont avec des petites balles, un pistolet normal au début, ben c'est clair qu'il faut que toi, tu t'enlignes comme il faut pour ton tir. Mais là, tu finis avec un shotgun qui te spray ça 12 pieds de large dans l'écran. Tu fais juste comme sauter, tu tires, puis tu vas être tué.
Ah oui.
Fait que ta difficulté de ce côté-là diminue.
Ouais, puis c'est un peu ce que j'ai trouvé aussi moins intéressant. Sauf rendu au point où est-ce qu'à la fin, je cherchais les derniers power-ups qui me manquaient. Puis là, ça me dérangeait pas d'être hyper puissant, de pouvoir courir comme un fou, de repasser dans les salles, tirer 3-4 ennemis en passant, puis laisser les autres. Mais à ce point-là, ça me dérangeait plus. Mais juste avant, quand j'étais encore dans progression, puis j'étais presque aussi fort, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Rendu là, à la fin, il y a quand même le dernier boss qui est là. Je dirais que c'était ma grosse déception du jeu. Je trouve qu'il était beaucoup trop facile, le dernier boss. Je l'explique là, pour ceux qui ne sont pas rendus, tant pis pour vous. Il y a comme un gros airship, un gros avion. Moi, je vois, c'est pas un avion, c'est plus gros. Là, c'est comme un gros porte-avion volant. Ouais, peu importe. Là, qui décolle, puis le gros méchant Commander Lucius veut aller bombarder San Francisco. Là. Sur l'écran, ben, t'as comme le petit indice habituel qui dit « Ah, c'est beaucoup trop, l'armure est beaucoup trop forte, on n'arrivera jamais à l'endommager, sauf en tirant des nukes. » Puis là, à côté de toi, il y a un piton, tu pèses dessus, il y a un nuke qui sort. OK. Puis là, il y a une autre place pour viser. Puis là, ben, tu recommences trois fois avec trois spots de nukes qui sont où est-ce que t'es, puis sont pas trop durs à trouver. Tu sais, je sais, là, peut-être que le fait que j'étais avec une armure extrêmement puissante fait que les ennemis qui étaient là, je m'en foutais, je m'en occupais même pas, ils me tiraient dessus, puis je faisais juste viser puis tirer mon nuke. Fait que c'était comme très facile. En même temps, il y a de quoi de solidement badass de tirer trois nukes sur un avion puis qui se crash à côté, là. Fait que tu sais, si j'oublie le niveau de difficulté, le combat, il est vraiment awesome au niveau cinématique, mais je trouve que, comme on disait, ça devient comme... T'sais, ça devient plate comme dernier boss qui soit aussi facile. Mais ça reste un jeu auquel, dans ceux que j'ai joué dernièrement, là, qui avait un gameplay des plus intéressants, des plus le fun. T'sais, ça reprend des classiques, ça reprend avec quelques éléments nouveaux et des améliorations. Puis t'sais, pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Là.
Mais est-ce que tu as vu la fin alternative?
J'en parle.
Je te laisse aller alors.
Ouais. Parce que c'est très drôle, je ne savais pas, là, c'est en faisant mes recherches que je l'ai trouvé. Il y a toute une affaire weird au jeu que j'ai pas compris en y repensant. C'est comme l'intro. C'est un peu comme dans les Metroid. T'sais, tu commences d'habitude dans Metroid, de toutes tes affaires, puis là, il arrive de quoi que tu perds toutes tes armes. Fait qu'ils ont fait un peu la même chose, tu sais. Mais tu commences avec un dude pas de nom qui trouve l'armure dans une rue pendant qu'il y a des méchants qui attaquent le vice-président. Puis là, ben, tu sais.
Ouais, ben ça, c'est la scène d'intro là, où tu joues un autre personnage.
C'est ça, tu joues complètement un autre personnage, t'es pas le même gars, puis là, ben, tu sais, tu sais même pas ce que tu peux faire vraiment. Puis là, tu comprends, je peux tirer, ah, je tire l'hélicoptère, puis là, ben, là, ton armure à gel, puis là, t'entends le Commander Lucius qui dit, ah, l'armure est contrôlée à distance, tu pourras pas sauver le vice-président. Puis là, le vice-président, il meurt. Puis après ça, tu te retrouves avec Fleming qui court dans le bois après Claire là, pour espérer avoir une petite gâterie de nature.
Pour
là.
Faire un pique-nique.
Un pique-nique. Puis là, t'es comme. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais bon, tu sais, après que tu as fini le jeu, tu comprends un peu plus la scène d'intro, mais c'est weird quand tu commences le jeu. Mais sinon, l'histoire est intéressante, le gameplay est engageant, tu as le goût de continuer. J'ai juste du bon à dire sur Shadow Complex. Avant de donner mes pattes, il ben, y a un petit truc que je voulais revenir puis que j'ai pas. Tu sais, je savais pas au départ, comme je disais, en faisant des recherches. Tu dis que le script est écrit par un vrai auteur, ben c'est pas pour rien. Il y avait beaucoup de travail à ce niveau-là pour créer un univers, en fait, parce que le jeu fait partie d'un univers qui est quand même plus grand. Orson Scott Card, là, celui qui a écrit Ender's Game, là, les livres, oui. pas le film, là. il a écrit un roman qui s'appelle Empire qui se passe en parallèle avec le jeu. Puis le jeu, dans le fond, qu'on joue, devrait être pas mal imbriqué dans la suite, dans Eden Empire. Donc, il y a comme une suite d'histoires, puis tout ça est assez imbriqué. Donc, il y a comme quelque chose, un univers qui a été monté avec lui. Dans le fond, c'est lui qui a écrit, mais avec une... ils ont comme donné le contrat, si on veut. Mm-hmm. Fait que dans Empire, on retrouve le président qui est mort, dans le fond, puis la guerre civile qui est sur le point de partir. Fait qu'en même temps que nous autres, on sauve du complexe pour essayer d'empêcher ça. Ça a l'air qu'on n'a pas réussi à empêcher tout ça, hein, tant pis. Au moins, j'aurais sauvé San Francisco. Hashtag Calexit. Mm-hmm. Puis je suis parti en hélico. Avec mon armure en or, là, mais bon. mais comme tu disais tantôt, un peu plus tôt dans le jeu, on peut justement. On arrive à un point où est-ce qu'on peut ressortir dehors du complexe, puis juste retourner à notre Jeep, puis crisser notre camp, en laissant Claire se débrouiller avec son maudit problème. Puis la cutscene montre un Fleming qui s'en va comme un peu philosophe dans son Jeep, puis qui lâche cette réplique. Plenty of fish in the city. C'est vraiment comme, fuck it. Elle vaut pas la peine. C'est quand même assez drôle. Pour les fans de voice acting, vous aurez peut-être reconnu Nolan North, là, le même dude qui fait Desmond Miles dans Assassin's Creed, qui fait Nathan Drake dans Uncharted, entre autres.
Qui fait tout.
C'est ça. Bref, je donnerais à Shadow Complex un 4 pattes de divan cybernétique qui annule la friction puis qui vont vite.
Pas pratique, ça. Ah oui, c'est pratique de déménager des meubles, mais ils glissent partout.
Yes. Ouais,
c'est
ça. Puis ils défoncent toutes tes boîtes quand tu lâches. Donc, ben, pour trouver nos derniers épisodes, c'est sur le divanquest.com pour du feedback, du hate mail sur Twitter au twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Vous pouvez aller faire un petit tour sur notre Patreon à patreon.com/divanquest. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts sur le rzoweb.com, dans la playlist de PodQuébec au podquebec.com. Sur iTunes, ben, vous pouvez nous trouver. Cliquez les 5 petites étoiles, hein, ça nous fait toujours monter dans les rangs, ça nous rend plus facile à découvrir. Puis vous pouvez aller sur change.org pour trouver la pétition pour Karen. On se revoit dans 2 semaines et d'ici là.
Game on!
Game on!